Bonjour Alicias, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Traversée, une émission que vous retrouvez tous les vendredis en direct entre 10h et midi. Ensuite, il y a les rediffusions et les podcasts et nous remercions Alan Delahaye, Valentin Marguerie pour la réalisation technique, parce que sans technique, pas d'émission. Au micro, Christian Moreto, mais pas que, puisque je retrouve avec plaisir mon compère Joël Oudeau. Bonjour.
Yes, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans l'émission donc Traversée. L'indicatif est signé de Damien Moreto. Il y a des invités, alors peut-être excusés, notamment Patrick Jimena qui est souffrant. Et puis nous aurons peut-être un professeur du collège Les Tournesols, l'école Stender, qui viendra peut-être, mais nous, pour l'instant, ils ne sont pas arrivés. Et par contre, je salue au passage aussi notre complice Audrey Saint-Cast, qui reviendra peut-être à la rentrée. Émission réalisée en coopération avec nos amis de l'American Cosmographe, du Théâtre du Pavé et de TV Sol Actualité. Donc Joël, tu es venu avec dans tes bagages une invitée.
Alors, elle est venue toute seule, il n'y a pas besoin qu'on l'amène dans ses bagages.
Très bien.
Je suis en fait avec une invitée et une autre qui devrait bientôt arriver. Et donc notre invitée qui est en ce moment dans le studio, et on la remercie parce que sinon on aurait été un peu seul.
Nous aurions fait l'émission.
Bonjour.
Bonjour, donc Valérie Georges.
Bonjour.
Donc, qui est responsable d'une association, elle va nous en parler en détail, qui fait de l'alphabétisation dans les quartiers.
D'accord. Alors, je salue au passage aussi notre amie Nicole Marine qui est là et qui est chargée de com aussi et qui nous aide pour Esprit Occitanie. Voilà, la bande est, en tous les cas, au niveau animation et technique au complet. Donc, maintenant, il manque quelques invités, mais donc, je te passe la parole, Joël, pour nous présenter, ou elle va se présenter peut-être toute seule.
Oui, je crois qu'elle est...
elle est assez grande.
Oui, je pense.
Je pense que... Donc, bonjour. Voilà, je suis présidente donc, de l'association Partageons le Français. C'est une association qu'on a créée en fin 95, qui dispense des cours d'alphabétisation et de français langue étrangère aux ISAR. Donc, alphabétisation pour les personnes qui ne sont jamais allées à l'école, qui apprennent à lire et écrire, mais on a aussi des personnes dans nos cours qui sont allées à l'école, qui ont bac plus 5, bac plus 6. Donc, on a vraiment une grande diversité de personnes.
Quand tu parles des personnes qui ont un bac plus 5 ou 6, tu veux dire des personnes qui viennent d'origine étrangère, qui ont un niveau... ce niveau de scolarité, mais dans une langue étrangère.
Tout à fait, qui sont donc bac plus 5, bac plus 6 dans leur pays. Donc,
d'accord.
Et qui viennent en France pour le travail ou pour finir leurs études en France. Et donc qui ont besoin du français, qui ont déjà un niveau généralement en français assez élevé.
D'accord.
Et qui ont besoin du français pour pouvoir trouver un travail après ou pour rentrer dans leur pays et travailler avec le français.
Donc un éventail de niveaux très, très large.
On a de 17 ans à 86 ans, 17-18 ans. Et effectivement, on a vraiment tous les niveaux. On a des dames qui viennent, qui n'ont jamais appris le français et qui ne savent ni lire ni écrire, jusqu'à ces personnes. Donc, on travaille par petits groupes, on ne mélange pas tout le monde.
J'imagine.
Donc, voilà. Sinon, ce serait un peu compliqué, mais on travaille par petits groupes. On est une quinzaine de bénévoles, donc sur chaque atelier, à peu près 6 ou 7 bénévoles.
D'accord.
Et donc, chaque petit groupe travaille. On essaye de travailler en binôme par petits groupes, ce qui permet aux bénévoles, qui sont souvent des jeunes retraités, de pouvoir s'occuper de leurs petits-enfants aussi, et donc de ne pas avoir une charge, mais vraiment un plaisir à venir. Mmh. Donc, c'est la base même de notre... C'est de garder ce plaisir à chacun et de cette liberté. Et tout le monde est très, très, très souvent là, donc c'est vraiment occasionnel.
D'accord.
Et les apprenants, on part aussi sur le même principe, c'est que ce sont des gens en difficulté souvent.
Mmh.
Donc... s'ils ne viennent pas une fois, il n'y a pas de...
D'accord.
On
n'est pas dans le système scolaire. Si vous n'êtes pas là, il faut un mot des parents pour
exactement,
la prochaine fois.
Exactement. C'est vrai qu'on essaye aussi de commencer le cours à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des mamans qui doivent déposer les enfants. Il y a des personnes qui sont hors du système, et donc il faut retrouver un système et retrouver des horaires. Donc on joue un peu sur tout ça, on s'adapte.
D'accord. Alors déjà une première chose, c'est qu'on s'adresse globalement quand même à des adultes, tu dis à partir de 17 ans.
On a eu une ou deux fois des jeunes qui sont venus, l'année dernière, c'était un envoyé par le collège, par un collège, parce que le jeune était, c'était un jeune Libyen qui était en déperdition dans son collège, donc ils nous l'ont envoyé.
D'accord.
Donc on a accepté exceptionnellement, effectivement, de le prendre et d'essayer de l'aider en français.
D'accord.
Et puis l'année dernière, on a eu quand même un groupe uniquement avec des mineurs isolés. Des jeunes Maliens, Soudanais et du Bangladesh. Mais en fait, ça a été compliqué, ça a été une très belle expérience, mais à continuer, il aurait fallu un prof de français langue étrangère en plus.
D'accord.
Qu'on cherche. Et voilà.
Donc on peut considérer que globalement, pour les jeunes qui sont d'âge scolaire, c'est normalement l'éducation nationale, et en tout cas le système scolaire qui doit les prendre en charge.
Logiquement, ça devrait être ça.
C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ça devrait être
ça. Mais ça devrait être ça. On a eu effectivement des mineurs isolés qui étaient en demande de dossiers, qui étaient en attente. Et dans ces cas-là, ils étaient heureux l'année dernière de venir, parce qu'au moins, ils faisaient quelque chose. Quoi.
Donc, il y a des principes de base, mais une grande capacité d'adaptation. Par rapport au public, par rapport aux situations que vous rencontrez sur le terrain.
Voilà. Logiquement, on ne peut pas prendre de mineurs dans les groupes de majeurs.
D'accord.
Et du coup, c'est pour ça qu'on avait créé un cours supplémentaire pour s'occuper de ce cas-là, donc de ces jeunes
D'accord.
qui étaient arrivés à l'association par une autre association qui nous avait contactés. Donc, voilà.
Alors, tu parles donc des personnes que vous accueillez. Comment les personnes ont connaissance ou comment les personnes arrivent donc à l'association et arrivent au centre d'animation des Chamois pour suivre ces cours d'alphabétisation? Comment sont-ils recrutés en d'autres termes?
Alors, tout au départ, c'était vraiment les personnes du quartier uniquement, donc aux Isards. Mmh. Et puis, il y a vraiment une bonne ambiance dans le cours. Donc, on a beaucoup d'amis qui viennent. Donc, ça s'est un peu étendu comme ça. Ça s'est aussi beaucoup étendu grâce à Atan Ben Ismaël, tout à fait,
qui est le responsable
du centre d'animation des Chamois et qui donc nous héberge et qui a fait partager en fait notre association, qui nous a invités dans les petits déjeuners partenaires.
D'accord.
Donc ce qui nous a permis de déposer des flyers dans les différentes associations, à la CAF, aux différents bureaux autour et nous faire connaître. Et maintenant on a même des gens qui nous viennent de Pôle emploi,
D'accord.
qui nous sont envoyés par Pôle emploi. Et puis à côté de ça, on a fait un partenariat avec Ressources et Territoires. Et là, on est maintenant répertorié. Il y a eu un projet sur les quartiers nord, sur tous les cours de français qui sont dispensés dans les quartiers nord, auxquels on a participé. Et donc, on est aussi avec la préfecture et on est aussi répertorié sur cette plateforme qui est sur Internet. Et effectivement, si vous nous cherchez, donc on est aussi sur cette plateforme de Ressources et Territoires sur Internet dans les quartiers nord, donc partageons le français.
Peut-être une petite précision pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas nécessairement toulousains. Tu parles du quartier des Isards. Donc, le quartier des Isards est un des quartiers, comme tu l'as dit, nord de Toulouse, qui fait partie de ces quartiers que l'on qualifie parfois de difficiles, ou en tout cas, il y a une forte proportion de population d'origine étrangère et souvent en difficulté.
Oui, tout à fait. Nous, on a beaucoup de mamans, des grands-mamans des jeunes. Et j'avoue que moi, j'y vais deux fois par semaine. J'ai jamais eu de problème. Tout se passe super bien. Les gens qui viennent sont absolument très accueillants avec nous. Ils sont ravis de venir. Et donc, c'est vrai que souvent, quand je dis que je vais travailler aux Isards, on me dit « Oh, c'est dangereux ». Non, en fait, je m'y sens très, très bien. Il y a vraiment un accueil. Il y a beaucoup de gens qui ont plein de projets dans ces quartiers, c'est vraiment positif.
Je renchéris et je témoigne dans le même sens, puisque ayant des activités également à titre associatif, on en reparlera tout à l'heure avec Brigitte Laval quand elle sera là, sur ce quartier et notamment au centre d'animation des Chamois, c'est vrai que ça fait quand même... Ne racontons pas de salade. Il peut se passer quelques petits trafics ou quelques petits commerces illicites dans ce quartier.
Qui sont très bien décrits dans un roman qui a changé de titre de Benoît Sévorac, mais en tous les cas, c'est quand même pas mal vu. Alors, le titre a changé parce que ça s'appelait au départ Les Chiens Arabes, mais c'était pas par rapport au racisme ni rien. Hein. C'était juste ça, parce qu'il y a toute une histoire montée. C'est un polar, mais en tous les cas, très bien observé et très bien écrit par Benoît Sévorac.
Et rappelons aussi quand même que le quartier des Isards, c'est le quartier où est né et où a vécu notre ami Magid Cherfi, qui est quand même considéré aujourd'hui, on parlera tout à l'heure du marathon des mots et de littérature, comme un de nos écrivains, qui n'est pas parmi les derniers de notre littérature nationale.
Tout à fait.
Et donc, effectivement, c'est un quartier, mais comme beaucoup de ces quartiers, quand on se donne la peine, effectivement, d'y aller, où il y a une vie, en tout cas, associative. Donc, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que donc vous n'êtes pas refermé sur le centre, vous n'êtes pas refermé sur votre activité, mais qu'au contraire, vous fonctionnez un peu en osmose avec la vie du quartier, avec les associations du quartier.
On essaye effectivement, on reçoit en fait des personnes qui nous sont aussi envoyées par le quartier. On a aussi des mamans qui nous sont envoyées par les écoles, parce que les enfants ont des difficultés et donc les mamans prennent conscience qu'en apprenant le français, elles vont pouvoir aider leurs enfants. Donc effectivement, c'est un quartier où on se sent bien, en fait, où on est bien.
Mais en fait, ton association Partageons le français, finalement, elle pallie au fait que l'État a abandonné son rôle. C'est peut-être une question, mais c'est une réalité.
J'avoue qu'effectivement, parce qu'on
parce que c'est que du bénévolat, je suppose.
On a que du bénévolat et que
les associations qui étaient un peu aidées avec des contrats, notamment aidées, eh bien ces contrats-là disparaissent. Merci Monsieur Macron pour avoir offert aux plus riches encore plus de moyens et aux plus pauvres encore moins de moyens. C'est dit, mais n'empêche que c'est une réalité. Et s'il n'y avait pas les associations, il y aurait peut-être des dérives plus conséquentes.
J'avoue qu'on est en ce moment en demande de financement. On nous avait dit l'année dernière, j'avais vu une personne qui nous avait dit qu'on n'avait pas assez de visibilité dans le temps, puisque l'association est assez jeune, et qu'il y avait déjà le Greta sur place. J'ai travaillé aussi au Greta, ce qui est vraiment des cours super, c'est très très intéressant. On n'a juste pas le même public et on s'entraide avec la personne du Greta qui me dit quand il y a des places où je peux renvoyer effectivement.
Pas de la concurrence, mais de la complémentarité.
On travaille main dans la main avec le Greta qui est sur le quartier aussi. Mais effectivement, le public qu'on a n'est pas forcément le même, puisque beaucoup de personnes, nous, on reçoit en fait sans distinction toute personne qui souhaite prendre des cours tant qu'il y a de la place. Ne demande pas de papier, on demande pas de, on demande rien. Les cours sont gratuits, les bénévoles sont bénévoles.
D'accord.
Donc il y a, effectivement, les financements sont en fait uniquement nos propres cotisations. Donc on cotise pour faire tourner un peu la machine et on fait un vide-grenier en septembre pour renflouer, pour pouvoir acheter des livres. Donc on s'autofinance pour le moment.
Et le vide-grenier se situe où?
C'est à Saint-Michel. Ça sera à Saint-Michel, je crois que c'est le 30 septembre, il me semble.
Le 30 septembre, d'accord. Voilà. Donc, tu nous rediras ça avant de partir, quand même, n'oublie pas. Et pendant que l'on parle de cela, donc, pour des personnes qui seraient intéressées pour rejoindre ton équipe, tu peux donner des coordonnées
Alors, effectivement, pour rejoindre l'équipe, on recherche. J'aimerais être soutenue et secondée aussi par un deuxième professeur de français langue étrangère. C'est mon métier.
Toi, effectivement, à l'origine, donc tu as une formation complètement en adéquation avec cette activité.
Voilà, moi j'ai une maîtrise de français langue étrangère. Ça fait 25 ans que j'enseigne. J'ai enseigné à l'étranger. J'ai toujours fait ça et j'habitais à l'étranger. Je rêvais en rentrant de monter, de faire quelque chose dans le bénévolat, dans l'associatif, dans ce domaine, puisque c'est mon domaine. J'ai une auto-entreprise à côté pour le côté finance et l'association pour le côté plaisir. L'autre aussi du plaisir. Mais c'est
alors, donc, comment on te joint?
Comment on me joint?
Donc, en recherchant, en envoyant la plus fine lignée sur la piste.
Vous traînez dans le quartier de Valérie et vous demandez Valérie.
Donc c'est soit donc les personnes peuvent venir directement soit à l'atelier, c'est le lundi et le jeudi matin au centre d'animation des Chamois. Donc soit directement, soit je vous donne mon téléphone. Donc c'est le 06 86 33 96 86.
J'avais oublié de prendre un stylo, donc est-ce que tu peux me le redire, s'il te plaît?
Alors, j'en profite pour le répéter, donc comme ça.
Ah, mais je l'ai.
Donc 06 86, c'est pour montrer que moi j'écoute et que je fais bien mon travail. 06 86 33 96 86. T'as toujours pas noté, Louis.
C'est bon, c'est enregistré, il y aura le podcast aussi. Donc.
Et donc, effectivement, on cherche des bénévoles en plus, parce qu'on pourrait ouvrir une troisième journée. On a beaucoup de demandes cette année de personnes qui sont venues s'inscrire en fin d'année pour l'année prochaine. Les personnes qui sont dans le coup, on a fait le bilan hier, elles veulent toutes continuer. Donc on va avoir.
Ça, c'est quand même un bon indicateur et un bon signe.
C'est bon signe. Elles sont, c'est vrai que ça se passe très, très bien. Elles ont pas mal progressé, on trouve. Quoi. Bon, on a aussi des retours très positifs de l'équipe d'animation des Chamois qui dit qu'effectivement, le cours fait que ces personnes arrivent et sourient et osent parler en français alors qu'avant, elles étaient plus craintives. Donc, on a aussi un rôle, pas uniquement linguistique, mais aussi un rôle de social, d'ouverture. On a des dames qui sortent peu de chez elles et qui viennent et qui prennent confiance et qui sourient et qu'on a vu sourire et s'ouvrir. Et on offre le café à chaque fois et les petits gâteaux, donc ça permet des moments conviviaux de discussion. Donc il y a vraiment une bonne atmosphère. Et donc s'il y a des bénévoles qui souhaitent venir nous rejoindre, pas forcément professeurs, parce qu'on a des personnes dans les bénévoles. On a
est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignants dans les bénévoles ou c'est pas nécessaire?
Pas
d'abord,
nécessaire.
D'abord, premièrement, est-ce que, comme tu le disais, c'est pas une obligation d'être enseignant pour...
Tout à fait. On a une ancienne hôtesse de l'air, un ancien ingénieur, une ancienne comptable. Désolée pour celles que ceux dont j'oublie les métiers. On a aussi d'anciens professeurs, effectivement, de collège, de lycée, mais c'est pas forcément. Parce qu'en fait, on n'utilise pas les mêmes compétences, hein, étant donné qu'on travaille qu'avec des adultes et d'une façon très, très éloignée de l'éducation nationale.
Justement, j'allais te poser la question au niveau des méthodes pédagogiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que autant tout le monde est passé par là, on connaît le système scolaire, avec, selon les établissements, selon les enseignants, des méthodes plus ou moins actives. Par contre, effectivement, quand on s'adresse à des adultes qui viennent de l'étranger, avec en plus leur sac de difficultés sur le dos.
Alors, pour moi, la première chose la plus importante, c'est de trouver pourquoi et donc trouver vraiment leurs objectifs. Et de ne pas faire un cours, disons, débutant. Je donne un cours débutant, peu importe qui j'ai en face. Donc, il faut absolument trouver leurs objectifs et ne faire que des choses qui leur soient utiles et qui, des mots, des expressions qui peuvent être réutilisées dans la vie réelle. Donc, travailler sur des thèmes, alors, je veux dire, des thèmes bateaux, le marché pour les dames, compter. On fait aussi un petit peu... tout petit peu de maths, savoir rendre la monnaie, voilà, ça peut être ça. Certaines, donc, savoir remplir des formulaires administratifs, remplir les papiers de l'école, ça dépend. Mais c'est pour ça que c'est important dans chaque groupe de voir les objectifs de chacun, parce que si on n'a pas de maman, par exemple, dans un groupe, ça ne sert à rien. Je dis maman parce qu'il y a très peu d'hommes.
Oui, alors justement, j'allais poser la question.
Je mets au féminin parce que les hommes...
C'est de quel ordre?
99% de femmes, 1% d'hommes.
Alors, il y a deux façons de voir le problème. Soit les hommes savent déjà, maîtrisent déjà complètement la langue, soit...
Je pense que c'est générationnel. Alors, les hommes que l'on a sont souvent des jeunes hommes qui veulent effectivement reprendre des études. On a des Nigérians, on a... un Brésilien qui...
Adriano.
Adriano, voilà, qui est venu depuis le Forum des langues. Les hommes sont souvent jeunes. Mais les hommes plus âgés, on en a eu quelques-uns, mais c'est très compliqué pour eux d'avouer devant d'autres, devant des femmes qui ne savent pas lire ou écrire ou qui ne savent pas parler. C'est plus compliqué. Peut-être la place de l'homme, on ne leur laisse pas le droit de ne pas être parfait donc, aux yeux des femmes.
Et
je ne sais
pour
pas.
Certains, est-ce que le fait que ce soit mixte, pour certains hommes, peut être un frein à franchir la porte?
Ça a pu être un frein pour une ou deux femmes, bizarrement.
D'accord.
Mais on, je touche du bois, pour le moment, on n'a pas eu de problème comme ça. C'était plus... Après, c'est compliqué quand, voilà, quand il y avait un homme qui arrivait dans le groupe de femmes, elles avaient leurs petites habitudes, et le nouveau était peut-être pas... Quand c'était
il
pas
se chantait,
souhaité par certaines femmes. C'était... Mais après, ça se passe très bien, en général. Ouais. Franchement, ça se passe très, très bien. Donc, c'est vraiment une question. Et ça joue aussi... j'étais contente, justement, à chaque fois qu'il y a un homme qui vient, je suis contente, parce que ça joue sur la mixité sociale. On a une certaine mixité sociale aussi. Oui. On a une mixité de nationalité, d'âge. Et s'il y a la mixité tout simple, homme-femme, ça rajoute... voilà. C'est ce qui nous manquait un peu. Et j'essaye de trouver des hommes. Avis à ceux qui veulent
donc,
prendre des cours.
Donc, si vous ne parlez pas français, alors le problème, c'est que s'ils ne parlent pas français, ils ne vont pas comprendre ce qu'on est en train de dire.
Mais si vous avez des amis qui ne parlent pas français et que vous voulez les aider...
Incitez-les à venir.
Parce qu'ils seront très bien reçus.
C'est au Centre d'animation des Chamois. L'association s'appelle Partageons le français. C'est tout un programme aussi, cette appellation.
On a cherché un nom qui reflète effectivement ce qu'on souhaitait. Parce que c'est vraiment un lieu de partage. Ouais. Pas uniquement de cours. C'est ça, c'est pas uniquement linguistique. Il y a vraiment un lieu de partage. On a même fait des photos, par exemple, pour le Forum des langues et leur donner les photos après. Il y a plein de choses. Je sais que certains se voient à l'extérieur, ça crée des liens entre eux. Donc, c'est vraiment un partage.
C'est ça. Donc, au-delà même de la langue, qui est une nécessité et une attente au départ, c'est aussi une occasion de rencontre, de partage qui va au-delà et peut-être même... entre certains des bénévoles enseignants qui sont sur le secteur, il peut peut-être y avoir aussi des relations qui se nouent avec...
Il y a des bénévoles qui souhaitent...
Il n'y a pas eu encore de mariage entre...
Non, pas de mariage. Mais il y a effectivement des bénévoles qui continuent les cours à l'extérieur.
D'accord.
Parce qu'il y a des amitiés qui se créent, il y a des liens qui se créent entre certains... apprenants certains bénévoles.
Ce qui veut dire, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'autres structures avec lesquelles vous travaillez en partenariat, mais je veux dire qui ont des processus de fonctionnement, on va dire, beaucoup plus rigides, que quand même, on revient à ça, une des caractéristiques de ton association, c'est quand même une très grande souplesse et une très grande adaptabilité au terrain et au contexte.
Moi, je pars du principe, en fait, en général, il faut que les gens aient envie de venir et de revenir, que ce soit du côté bénévole et que ce soit du côté des apprenants. Donc, il faut vraiment créer ce lien parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, on m'avait dit, tu verras, le turnover chez les bénévoles, c'est énorme. Moi, pas. Mais parce que c'est pas moi, c'est en fait l'ambiance fait, on fait deux restos par an, on s'envoie... Voilà, il y a
une convivialité.
Une convivialité qui est très importante et qui fait que les bénévoles s'y retrouvent. Donc, ils sont positifs aussi quand ils viennent. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Et puis, du côté des apprenants, c'est vrai qu'on est... On joue un petit peu le rôle des fois d'assistant social aussi, on en est à l'écoute, et puis il y a une convivialité vraiment qui se crée. Moi, j'ai une de mes étudiantes qui est devenue une amie, qui vient à la maison,
Et est-ce que les pouvoirs publics ont une oreille attentive? Ou alors, est-ce qu'ils se disent, c'est super, ils font le boulot à notre place, donc...
Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas finalisé le dossier de financement cette année. Il faut qu'on le fasse. Ça, c'est notre problème. Parce qu'on est au niveau administratif, il faut qu'on mette un petit coup en plus. Je pense que petit à petit, on a une visibilité qui s'est créée. Donc, j'espère qu'on aura des retours. C'est vrai, quand on a fait les réunions avec la préfecture et Ressources et Territoires, ça s'est bien passé. Ils ont entendu effectivement le travail qu'on faisait là-bas et reconnu. Donc j'espère que ça pourra continuer.
Et j'entendais que tu disais tout à l'heure que Pôle emploi vous envoie parfois des personnes. Ce que l'on entend, c'est que du côté des institutions, ou de certaines institutions, on connaît votre existence quand on a besoin de vous. Donc c'est vrai que ça serait quand même bien qu'on renvoie l'ascenseur. Parce que tu évoquais aussi au début, on a beaucoup tourné autour de cette idée, que donc, c'est une activité de bénévolat, et que Christian posait la question tout à l'heure de savoir est-ce que quelque part Vous ne vous substituez pas à ce que devraient faire les institutions. Bon, c'est une réalité, mais je dirais que pour beaucoup de choses qui se font dans le domaine social, culturel, sportif, etc., et que sans le réseau des associations, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas lieu. Et en même temps, bon, c'est aussi ce que vous faites, c'est quand même une mission de service public, quelque part. Donc, ceux qui détiennent les cordons de la bourse au niveau des pouvoirs publics, qui ont la chance d'avoir des gens qui font le boulot, à minima, c'est qu'ils apportent les aides nécessaires.
Oui, effectivement. Ça risque d'aboutir. J'espère qu'on va dans cette direction.
Après, actuellement, vous recevez déjà des aides publiques?
Rien du tout. Non, pour le moment. Mais
vous visez uniquement sur la base de vos cotisations?
Les cotisations et notre vide-grenier.
D'accord, et votre vide-grenier.
mais j'avoue qu'on n'a pas finalisé le dossier. On doit le finaliser incessamment sous peu pour les demandes. Là.
Donc, on peut quand même aussi lancer un appel public pour des gens qui seraient candidats pour venir faire de l'alphabétisation pour adultes dans un contexte qui existe déjà, où tout est en place, avec une équipe tout à fait sympathique, avec des possibilités d'être formés pour ceux qui ont besoin d'une formation à la pédagogie d'adultes. Et puis, éventuellement, pour ceux qui n'ont pas cette possibilité ou qui ne le souhaitent pas, s'ils veulent apporter une petite aide financière...
Avec grand plaisir.
Tu rappelles ton numéro de téléphone ?
Donc, c'est le 06 86... 33 96 86.
Et c'est Valérie, et c'est l'association Partageons le Français.
Et est-ce qu'il y a une page Facebook qui a été créée?
Non, alors si par exemple il y avait un informaticien ou quelqu'un qui pourrait nous faire ça bénévolement, parce que je suis absolument nulle sur Internet, donc ce serait avec grand plaisir, voilà, parce qu'on cherche effectivement un bénévole pour essayer de nous faire une page Internet. Pour le moment, il n'y a rien, effectivement.
D'accord. Parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est effectivement aussi un média qui nous permet de faire passer des informations quand elles ne passent pas par les canaux habituels de certains médias qui sont entre les mains de puissants et qui n'aiment pas certaines gens. Et nous non plus, d'ailleurs. Nous ne les aimons pas forcément. Allez, je vous propose de marquer une pause en chanson avec Jacques Dutronc. Alors, c'était dédié, je le dis quand même, à notre ami Patrick Jimena, donc, qui est conseiller municipal de la France Insoumise à Colomiers et qui est souffrant ce matin. Mais ça s'appelle Le Petit Jardin. Et des fois, des petits jardins disparaissent pour y mettre de grandes bâtisses où ce sont des cages à lapins, comme le dirait très bien Pierre Rabhi, qui vivent du coup hors sol. A tout de suite, et nous écoutons donc Jacques Dutronc.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur. Sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin, au fond d'une cour à la chaussée d'antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'antin.
Bonjour Adicias, vous êtes donc toujours à l'écoute de l'émission Traversée sur Esprit Occitanie, une émission que vous retrouvez en direct entre 10h et midi et qui est ensuite rediffusée et podcastée. Et donc nous recevons aussi dans ce studio Xavier Degalzin qui est professeur d'un collège qui s'appelle des tournesols. Alors j'espère que ce ne sont pas des tournesols génétiquement modifiés.
Alors non, je ne pense pas que nous sommes dans le génétiquement modifié. Ce sont des enfants sains que nous aimons beaucoup et on ne les mange pas quand même.
Bon, d'accord. Et avec un tempo un peu particulier, moi j'ai lu, et c'est pour ça que ça m'a interpellé, parce qu'il y a l'ouverture programmée d'une nouvelle classe au niveau du collège, et j'avais vu une affiche, et moi ce qui m'a interpellé et intéressé, et j'espère que dans le fond c'est ça, et vous allez nous le dire, à travers l'éducation de nos enfants, quel monde voulons-nous contribuer à construire ? Coopération, respect de soi, de l'autre et de la nature, plaisir, curiosité, esprit critique et liberté de penser. C'est le cas dans cette émission de Traversée. Alors, de quoi il retourne exactement ?
Alors, c'est une longue histoire. Nous nous inscrivons dans le cadre d'une pédagogie plus générale et nous faisons quelques avancées dans cette pédagogie, puisqu'une pédagogie ne peut pas se figer dans le temps et d'accord, dans l'espace et dans les méthodes. Cette pédagogie, c'est la pédagogie Steiner-Waldorf, donc est une pédagogie qui existe dans le monde entier, qui il y a environ 3000 écoles dans le monde, dans tous les pays. Et donc, nous favorisons avant tout, effectivement, comme vous l'avez dit, la personne, la connaissance de la personne et la connaissance mutuelle des enfants entre eux et la connaissance mutuelle de l'enfant et de l'adulte qui l'entoure. Au sein des adultes, nous coopérons beaucoup. Nous avons chaque semaine 2 à 3 heures de concertation et nous avons dès le primaire des équipes d'enseignants et non pas un instituteur tout seul ou avec quelques accompagnants. Nous avons dès l'école primaire environ 4 ou 5 personnes qui travaillent ensemble autour de la classe, qui sont ce qu'on appelle un professeur principal, qui donne l'ensemble des cours comme un instituteur finalement. Et nous avons 2 professeurs de langue, donc 2 langues vivantes dès le CP, des cours de développement corporel et de danse, des ateliers artistiques, tout ça, et ateliers manuels et artistiques qui forment vraiment le corpus de l'enseignement au même titre que les maths et le français et l'histoire-géographie.
Donc c'est le développement de la personne et pas en faire de petits soldats au service d'une industrie ou d'une société financiarisée, par exemple.
Alors notre objectif est de permettre à l'enfant, qui va devenir un adulte à la fin de sa scolarité, permettre à cet enfant progressivement de construire sa personnalité, de se découvrir, de s'apprécier et surtout de développer l'esprit critique. Pour nous, réellement, un enfant doit arriver au niveau du lycée avec l'ensemble des éléments qui vont lui permettre de juger, d'avoir son propre jugement. C'est quelque chose de fondamental. Nous avons, pour nous, nous avons une mission, c'est éduquer l'enfant vers sa liberté. C'est le leitmotiv de notre pédagogie dans le monde entier. Le collège que nous créons à Toulouse, que nous avons créé l'année dernière, c'est la suite logique de cet enseignement qui est une unité en réalité. Nos grandes écoles accueillent les enfants de 3 ans à 19 ans dans le même établissement. Et donc, cette, on peut dire cette parcellisation de l'enseignement avec école maternelle, école primaire, collège, lycée, c'est quelque chose qui est une réalité en France, qui est la réalité sociologique, la réalité intellectuelle en France. Mais en réalité, nous nous rendons compte que l'enfant a besoin de voir les grands autour de lui, de pouvoir se projeter dans l'être qu'il sera 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Et à travers cette projection qu'il aurait, à travers le lien qu'il a avec ses aînés, je parle ses aînés proches, l'enfant peut se projeter dans quelque chose qui va être son devenir. Par exemple, je prends un exemple qui est assez symptomatique de notre pédagogie. La coopération entre les enfants est très importante, par exemple à l'occasion de projets que nous avons, de projets annuels, qui sont par exemple cette année, les élèves de la 6e, de la classe de 6e, ont monté une pièce ensemble, une pièce de théâtre. Et donc, ils ont écrit cette pièce tout au long de l'année.
Donc, c'est eux qui ont pris la plume pour...
C'est eux qui ont pris la plume, ils ont écrit cette pièce. Et très librement, avec des ateliers. Et bien sûr, tous les élèves n'ont pas envie de faire ça. Hein. Donc, ça a été un groupe qui a tiré ça et qui l'a tiré dans un certain sens, de parler de leurs problématiques, de leur vie, etc. Et puis, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que cette pièce ne correspondrait pas forcément à tous les enfants de la classe. Et donc, le professeur a amené, le professeur que je suis, a amené une pièce qui était censée faire l'unité et qui l'a faite. Donc, j'ai pris quelque chose qui correspond bien aux 11-12 ans, qui est une farce du Moyen-Âge. Et donc, nous avons pris cette farce du Moyen-Âge et ils ont accepté très librement de dire, ben oui, la pièce que nous avons écrite nous-mêmes, on va la jouer comme ça entre nous, hein, pour la faire, mais on est tous d'accord pour trouver notre place dans cette pièce. Et donc, nous avons pris une petite pièce qui s'appelle « Par-ci, par-là », que nous venons de jouer dans la salle du Sénéchal, que la mairie nous prête chaque année pour nos fêtes. Et nous l'avons joué devant les parents, devant les autres enfants et devant des personnes invitées. Et ça a été assez merveilleux pour les élèves de rentrer dans cet élément donc, de critique de la société de l'époque, on peut dire, mais qui est encore valable aujourd'hui. Voilà, le couple, les métiers, etc. Donc c'est quelque chose qui est d'une grande richesse et surtout j'en parle parce que là chacun aussi a dû trouver sa place. Mmh. Il y avait des enfants plus intellectuels que d'autres, des enfants plus liés à la capacité de s'exprimer, hein, qui ont voulu avoir beaucoup de textes. Et puis d'autres qui ont dit ben non, moi je ne veux pas avoir de texte, je ne le sens pas, je voudrais faire autre chose. Et donc généralement dans nos pièces, c'est ce que nous faisons à peu près à tous les âges, chacun trouve sa place. Il y en a un qui s'est vraiment spécialisé dans les décors, qui a été en détail pour vraiment faire les décors. Toute la classe a créé les costumes. Il a fallu créer des costumes de cuisinier puisque cette pièce, par-ci, par-là, se passe dans un restaurant, dans une auberge, exactement, à Bourbon-l'Archambault, en plein Moyen-Âge. Et voilà, donc ça fait que chacun a trouvé sa place. Et ça a donné une vraie réussite puisqu'il y avait vraiment la possibilité pour chacun d'être lui-même.
D'accord. Joël, tu as des questions sans doute à poser, et puis Valérie aussi.
Hein. Moi, ça me donne envie de réagir, d'abord parce que je partage à 100% tout ce que vous dites sur la méthode, parce que, tu le sais, ayant l'occasion d'être responsable d'une association qui aide à un projet de développement dans certains villages en Inde, il y a précisément un enseignement là-bas qui se développe, qui, je dirais, est exactement de même nature. Et donc, je suis quand même particulièrement sensible. Dans ce village aussi, on fait de l'alphabétisation des femmes. Donc, tout ce qui se dit ce matin, je trouve ça très intéressant de voir que partout dans le monde, il y a des initiatives qui vont dans le même sens. Et par rapport à l'idée de la pièce, et de la pièce qui se réfère au Moyen-Âge, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'à l'époque du téléphone portable et des nouvelles technologies de l'information, le Moyen-Âge est encore quelque chose qui peut intéresser et fédérer. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on parlait du centre d'animation des chamois où Brigitte anime ses séances d'alphabétisation.
Valérie, souviens, non c'est Valérie.
Valérie, pardon, excuse-moi. Valérie, excuse-moi. Et donc, je me souviens que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, notre ami Atem Ben Ismaël, dont on ne dira jamais tout le rôle important qu'il joue dans ce centre, avait monté une animation avec les enfants sur le Moyen-Âge. Et ça avait marché du tonnerre de Dieu auprès d'une population d'enfants, pour la plupart immigrés, qui était très, très, très éloignée de la culture française d'une part, mais encore un peu plus du Moyen-Âge, quoi. Et c'était quand même super intéressant de voir comment il s'était approprié ça et comment ça s'était excellemment passé. Et d'entendre des petits Africains, des petits Maghrébins parler en français du Moyen-Âge, c'était quand même particulièrement jouissif.
C'est magnifique.
Oui, oui, oui.
Je voudrais intervenir. Donc là, je suis parti juste sur un exemple. L'exemple d'une pièce de théâtre que l'on fait pour que chacun trouve sa place. C'est l'image de ce qui est, de ce qui guide notre pédagogie. C'est-à-dire que chacun arrive à reconnaître dans l'autre les qualités de l'autre, ce qu'il est. Et donc j'ai dans ma classe encore aujourd'hui plusieurs enfants d'origines différentes, donc un petit maghrébin, un petit qui vient aussi, qui peut être considéré comme en échec scolaire ou en difficulté scolaire, et puis tout un groupe de filles un petit peu plus avancées aussi. Et à travers la diversité des matières que l'on enseigne, c'est-à-dire les ateliers manuels, ont la même valeur que le cours de mathématiques ou le cours ou les autres cours. Et ça, c'est vraiment la règle de notre pédagogie, c'est-à-dire à la différence de ce que prône l'éducation conventionnelle, donc publique ou privée, nous n'avons pas de notation dans notre école. Nous ne sommes pas dans cette situation d'avoir une notion apportée, puis assez rapidement une évaluation, puis juste après une notation. Donc nous ne sommes pas du tout liés à cette situation de comparer l'enfant à une norme. Pour nous, ça, c'est quelque chose qui est presque avilissant pour l'enfant. C'est-à-dire cette norme qui va se définir par une moyenne de classe, pour moi, c'est un abaissement. C'est-à-dire, ça va représenter pour l'enfant quelque chose qui n'est pas lui-même, surtout s'il n'a pas la forme d'intellectualité précoce qui est préconisée malgré tout. Et donc, nous avons ni notation, ni évaluation permanente, mais les enfants eux-mêmes s'apprécient chacun pour les qualités qu'ils ont. Et c'est assez étonnant. Là, je dois dire, ça fait 30 ans que j'enseigne dans ces écoles. Nous sommes à Toulouse une petite école. Je suis venu pour pour permettre le développement et aider à ce que ça se fasse. Nous avons monté la première classe de collège l'année dernière, dans la suite de l'école primaire. Et nous avons fixé une feuille de route que je vais vous décrire maintenant, qui est très symbolique de notre démarche. La première chose, c'est d'avoir la possibilité pour les enfants de chacun trouver sa place, quelles que soient ses capacités et ses formes d'intelligence. Il y a aujourd'hui de nombreuses réflexions aux États-Unis, en Europe, sur justement les intelligences multiples. Vous avez dû en entendre parler, je ne vais pas vous citer les auteurs, on n'a pas vraiment le temps. Et donc, que signifient les intelligences multiples? C'est d'être capable de reconnaître dans l'être qu'il y a une intelligence intellectuelle, une intelligence du cœur, une intelligence sociale, une intelligence manuelle, et je ne les ai pas toutes citées. Et les enfants, il faut que l'on puisse, chez eux, non pas les évaluer sur la seule intelligence intellectuelle et la capacité, je dirais presque la docilité à rentrer dans le système, mais plutôt de leur permettre de développer leur personne, quelle que soit leur capacité. Tous les enfants ont un domaine, chaque enfant a un domaine où il est vraiment brillant, quel qu'il soit. Et même s'il n'est pas brillant, ce n'est pas le but. Le but, c'est que chacun développe sa personne et qu'il se trouve lui-même et qu'il se rencontre à travers son développement. Et donc là, nous avons... Ça, c'est la première notion. Donc, arriver à ce que les enfants puissent s'apprécier les uns les autres et collaborer en permanence, au sens de ne pas se juger les uns les autres, au sens de ne pas se juger soi-même. Un enfant qui aura zéro tout le temps, ou en tout cas qui aura des notes tout le temps en dessous de 10, dans notre système conventionnel, ou peut-être des A+, A- qui passent à des D-, voire E ou F, je ne sais plus ce qu'on peut mettre pour aller vers le plus bas, le A étant souvent les bonnes notes, eh bien c'est pareil, ça revient au même que 0 sur 20 ou que 10 sur 20. Et donc ça, c'est quelque chose qui est totalement exclu de nombreux enseignements dans le monde entier. Cette notation. Et donc, là-dessus, nous nous érigeons en école vraiment internationale, c'est-à-dire de pouvoir respecter l'individu dans toutes les cultures. La France étant un des pays les plus avancés dans ce système notation, évaluation, etc. Même si je ne veux pas rester critique là-dessus, j'ai des collègues instituteurs merveilleux qui, heureusement, s'émancipent de ce système, eux, dans leur classe, et ça, je dois dire, heureusement, c'est la majorité. Mais le système est trop prégnant. Le deuxième aspect, je m'excuse de parler. Le deuxième aspect, c'est le lien avec les rythmes de la nature. Pour nous, c'est fondamental. Dans notre pédagogie, dans le monde entier, mais particulièrement dans notre projet collège. Dans notre projet collège, nous réservons une journée entière chaque semaine dans les bois, dans la nature. Les cours sont faits, ce n'est pas des cours, hein. Les enfants vivent la nature pour elles-mêmes. Et je suis très fier cette année d'avoir ce groupe d'enfants que j'ai eu qui sait reconnaître le vol, le chant, l'habitat des piquets-pêches, des pivers, et tous. D'enfants qui ont fait un vrai travail là-dessus ensemble et individuellement. Le martin-pêcheur et de... nombreux autres oiseaux, mais cela étant vraiment symptomatique parce qu'ils ont vécu tout au long de l'année l'observation de ces oiseaux-là, qui sont des oiseaux qui ne sont pas migrateurs, qui vivent en permanence ici. Et nous avons eu la chance d'avoir un animateur nature qui vit sur un lieu, qui est le domaine de 50
à Ramonville.
Et donc ce garçon, qui est mon collègue pour cette activité-là, qui s'appelle Freddy Goub, que je remercie, qui cette année vraiment nous a accompagnés et a permis que ça se réalise. Alors non seulement... il y a la fierté d'avoir découvert petit à petit, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, il n'a pas neigé, mais qu'il pleuve, qu'il vente, etc., nous étions sur le terrain. Hein. Et donc ça, c'est un cours à part entière, au même titre, je le répète, que l'histoire-géographie, le français, les maths. Et donc, nous y avons consacré une journée quand même, chaque semaine, pas tout à fait, mais presque. Et donc là, c'était un point fort de notre projet avec le collège. Pourquoi avec le collège plus qu'en primaire ? Parce qu'au collège, l'enfant déjà a une autre conscience et de lui-même et de la nature et des capacités de formulation, d'observation maintenant et d'étude. Et donc, à la fois que cette étude ne soit pas purement intellectuelle à partir de documents, de livres ou d'Internet, mais que ce soit concret sur le vécu. Donc ça, c'est essentiel. Pour avoir ce vécu, il faut bien aller sur le terrain. Et donc là, vivre sur le terrain permanent. Ça, c'est un des éléments forts que nous continuons avec la classe de 5e, puis la classe de 4e, puis la classe de 3e. Donc le collège aura toujours une journée entière nature chaque semaine. J'aimerais que ce soit 2 jours, voire 3 jours. Mais ça, c'est plus difficile à négocier. voilà. Donc, premier aspect, je vous l'ai dit, cet aspect de la coopération et de la reconnaissance de l'un et de l'autre. Deuxième aspect, le lien avec la nature. Le troisième aspect qui nous tient aussi fortement à cœur, c'est que les enseignements soient très diversifiés. Autrement dit, je l'avais déjà exprimé au début, il y a de nombreux ateliers à un âge où l'enfant est dans cette préadolescence qui arrive. Et donc, il faut qu'il commence à prendre conscience de lui-même, de son corps. Il a du mal à apprivoiser ses membres, ses jambes, ses membres qui s'allongent, ce corps qui le gêne petit à petit avec cette puberté qui arrive. Et là, il est essentiel d'avoir du sport, ou en tout cas le sport, mais surtout chez nous, quelque chose de plus, pour l'instant un peu plus subtil, c'est-à-dire un développement corporel à travers la danse, à travers une matière chez nous qu'on appelle l'eurythmie, hein, dont je parlerai une autre fois, s'il y a besoin, qui est un art du mouvement que nous représentons après sur scène et qui développe avant tout la beauté et la connaissance du corps humain et de la relation avec son environnement. Ensuite, nous avons quelque chose qui est essentiel aussi, c'est que l'enfant puisse vraiment, et ça c'est le troisième point fondamental, puisse non seulement développer l'abstraction qui commence à devenir quelque chose d'important pour eux, notamment à travers la géométrie, l'algèbre, etc., mais qu'ils puissent continuer à habiter son corps et principalement ses mains, qui sont notre élément qui nous diversifie, qui nous permet d'avoir une grande différence avec l'animal, c'est l'exercice des mains. Et donc les mains, c'est depuis le début de la scolarité que les élèves font des travaux manuels. Là maintenant, avec le collège, on passe à une autre étape, ce sont des ateliers. On va travailler le bois, on va travailler la terre, on va travailler la forge, les matériaux, dans des ateliers, soit par période, soit hebdomadaire. Cette année, nous avons surtout travaillé la terre, et la terre en tant que modelage, hein, en tant que terre pour elle-même, mais aussi donc, nous avons essayé, à travers les préparations des fêtes et à travers les préparations des scènes, de travailler divers matériaux suivant ce que l'on avait et la possibilité qu'on avait. Voilà, j'ai développé trois aspects pour nous fondamentaux. Sur ce troisième aspect, c'est l'occasion d'avoir une véritable égalité entre les enfants. Et cette égalité, pour moi, elle est... Je suis issu de l'enseignement public, j'ai fait toute ma scolarité dans des écoles publiques et j'en suis très fier et très content. Hein, mais il y a un problème d'égalité, et je ne suis pas le seul à le dire, le rapport PISA le dit depuis deux ou trois fois, nous sommes un pays pas très bon sur le plan de l'égalité, alors que c'est au fronton de toutes nos mairies, alors que c'est un des éléments fondamentaux de l'éducation nationale, et réellement, on peut dire qu'on est en échec dans ce domaine de l'égalité. Pourquoi ? Eh bien, le premier aspect, c'est que l'égalité, c'est une égalité en droit, et non pas dans la réalité organique. Tout le monde est différent, il n'y a aucune égalité au départ. Il y en a qui naissent avec des facultés différentes dans tous les domaines. Donc l'égalité n'existe pas.
Ce qui veut dire que, pardon, je vous coupe juste 30 secondes parce que c'est une idée qui me traverse l'esprit, mais surtout par rapport à ce que nous dit et nous serine le président de la République être le premier de cordée, en fait, chacune et chacun, nous pouvons être premier de cordée dans un domaine particulier qui est le nôtre, celui dans lequel nous sommes les plus doués, finalement, et qui est parfois mis sous le coude parce que ça n'intéresse pas la finance ou l'économie telle qu'elle est conçue aujourd'hui.
Absolument. Et donc, nous pensons que l'école n'a pas pour but de préparer des bons ouvriers ou des bons cadres. Nous ne pensons pas du tout ça. On pense que l'école, elle doit préparer l'individu à être lui-même et à trouver ses potentialités, mais ses propres potentialités. Non pas celles que ses parents ou la société veut lui imposer. Par exemple, je prends un exemple personnel. Mes parents, voyant que j'étais doué à l'école, ont dit, ben toi, mon père étant dans des organismes internationaux, a dit, tu seras ambassadeur. Donc, la voie était toute tracée, il fallait partir, Sciences Po, etc. Voilà. Mais je suis parti là-dedans, et puis c'est l'art qui m'a rattrapé. Hein. Je suis devenu musicien, je suis devenu agriculteur après, etc., par un chemin personnel, après avoir fait l'université. Et bien là, c'est assez typique de ce que parfois, ce n'est pas seulement la société, c'est la société et les parents qui projettent beaucoup sur leurs enfants. Nous avons la chance, dans les écoles alternatives, quelles qu'elles soient, en France, d'avoir justement des parents qui ont une autre vision de l'éducation, y compris des parents qui ont leurs enfants dans l'éducation nationale, puisque c'est l'immense majorité, 90% quasiment, éducation nationale, enfin je veux dire éducation conventionnelle, publique ou privée, hein, ça fait 90%, voire plus, des écoles qui sont soumises au programme de l'État et qui n'ont pas cette liberté de faire des ateliers, de faire voilà, tout ce qui est le développement général d'une personnalité. Et c'est laissé souvent donc à ce qu'on appelle au périscolaire. Et l'intérêt, c'est que tout ça se soit ramené dans un établissement et que ce soit à égalité d'enseignement. Et je finis sur l'égalité. La véritable égalité, c'est celle qui permet à chacun d'être lui-même et de développer pour les autres et pour lui-même quelque chose qui sera le meilleur de lui-même. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'égalité. C'est-à-dire là, eh bien, tout le monde doit avoir le même droit à progresser pour tout apprendre, même s'il ne rend pas à travers les évaluations et à travers un système qui est en place aujourd'hui, même s'il ne rend pas les résultats attendus. Par exemple, j'ai été pendant une partie de ma carrière responsable d'un centre de formation d'apprentis de l'État public, hein, ici dans les Pyrénées. Et eh bien, je recevais des jeunes de 16 ans qui avaient été considérés en échec parce qu'il n'avait pas progressé assez vite à l'école primaire, parce qu'il n'avait peut-être pas appris à lire et à écrire assez tôt. Donc, mis en échec, considéré comme en échec, alors qu'il ne demandait qu'à tout apprendre. Et dans notre centre de formation d'apprentis, eh bien, nous continuons dans l'enseignement général à apprendre aux enfants uniquement les français, le français et les maths pour avoir leur diplôme d'apprenti. Mmh. On leur apprenait le français et les maths quasiment avec les mêmes méthodes qui les avaient mis en échec dans l'école primaire. Et ça, pour moi, c'est grave. Et donc, là où j'attends l'égalité, c'est que j'ai cherché dans le centre dont j'étais responsable, j'avais peu de pouvoir face à la hiérarchie éducation nationale, j'ai essayé qu'ils aient quand même des cours d'histoire-géographie, qu'ils aient des cours de sciences, qu'ils aient des cours de sport qu'on leur refusait, alors qu'ils étaient en cuisine à frotter toute la journée, etc. Et pour qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils aient cette possibilité-là. Et je me suis rendu compte que dans le système actuel, c'était impossible. Et donc, ces enfants-là n'avaient aucun cours d'art, aucun cours de développement corporel. Et donc, là, ils n'étaient plus dans une situation d'égalité.
Juste avant que tu ne prennes la parole, Joël, et peut-être Valérie aussi, des questions à poser. Nous pouvons les grouper. Mais par rapport à cet aspect-là, ça veut dire que finalement, le jeune va être bien avec lui-même. Et du coup, il va pouvoir être bien avec les autres et pouvoir partager et faire, entre guillemets, le bien.
Apprendre à s'intéresser, apprendre à s'accepter plutôt qu'apprendre pour apprendre sans objectif et rentrer dans une case.
Et du coup, ça crée beaucoup moins de violence derrière, parce que l'échec crée la violence.
Est-ce qu'on peut résumer en disant que l'égalité est un concept, mais que l'égalité mise en œuvre, ça commence par l'acceptation de la diversité et que l'école de l'égalité, c'est la capacité à devenir autonome et pour ceux qui sont en charge de l'école de la diversité, l'objectif numéro un, c'est l'autonomisation de la personne qui suit cette école.
Oui, alors je remplacerai le concept d'autonomisation que vous évoquez, qui est un concept difficile à vraiment comprendre, c'est-à-dire l'autonomie de l'enfant et du futur adulte va se construire pas à pas.
Oui. Hein ?
On ne peut pas considérer à l'école primaire qu'on va avoir déjà un élève autonome. Il faut qu'il passe par des étapes d'apprentissage, par des étapes de connaissance de lui-même, donc guidé par les adultes, mais aussi qu'il apprenne, et c'est le premier sens de l'école de la diversité que vous évoquez, l'école de l'égalité et de la diversité, c'est-à-dire qu'il apprenne à vivre avec les autres, à écouter l'autre, à pouvoir dialoguer avec l'autre, qu'on lui donne les outils de cette écoute et de ce dialogue. Ça, c'est vraiment le maître mot des écoles alternatives, que ce soit la pédagogie freinée, que ce soit ce qui est développé par Oury ou par les grands tenants de l'école nouvelle, on peut dire, Oury, De Croly, freinée, ce qui est vraiment développé par ce courant français donc d'éducation alternative est quelque chose d'une grande richesse pour développer cette autonomie, comme vous avez dit, mais cette capacité de l'enfant de se trouver lui-même et d'agir par lui-même, et aussi de rencontrer l'autre. Et là, il y a de très beaux outils, donc aussi dans ces autres pédagogies qui sont vraiment très fortes, mais dans la pédagogie Steiner, c'est vraiment mis en œuvre d'une manière où nous ajoutons à ça quelque chose qui est la rencontre profonde avec l'être de l'autre, qui pour nous est un élément important. Et je rajouterai donc un quatrième élément à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'élément du sacré. Pour nous, il est essentiel que l'école, la classe elle-même, soit un lieu que l'on aime et que l'on respecte, et dans lequel nous travaillons le beau et le juste et le vrai.
Ce qui est effectivement important et même essentiel, mais du coup tout ce que vous venez nous dire qui nous interpelle, mais de la bonne manière, parce que c'est aussi dans le tempo de l'émission, justement, comme je l'ai dit, traversé dans sa conception, c'est de réunir aussi plusieurs univers, mais en fait qui sont les mêmes, puisque nous traversons plusieurs domaines qui sont l'écologie, l'éducation d'une certaine manière, d'une certaine façon, mais aussi l'humanisme, tourisme, mais aussi la santé. Et je dis qu'aujourd'hui, d'ailleurs, et nous avions fait une émission à charge contre l'obligation des 11 vaccins, que nous avons une ministre de la maladie et pas de la santé, au service d'une industrie donc, qui nous empoisonne pour après nous proposer des médicaments. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là. Mais finalement, c'est dans la conception donc, du collège Les Tournesols et de l'école Les Tournesols, c'est un peu mettre au goût du jour vraiment la prise de conscience et la citoyenneté. Et de ça, les pouvoirs en place en ont peur.
Oui, certainement. Certainement, et il faut considérer donc aujourd'hui que la diversité éducative doit être une véritable règle dans l'éducation. Donc cette diversité éducative, nous nous battons avec toutes les autres écoles alternatives en France, hein, c'est-à-dire, on l'a dit, Freinet, De Croly, avec donc l'école nouvelle, le courant de l'école nouvelle, avec Montessori, avec tous ces courants-là pour exister tout simplement en tant que proposition alternative au modèle dominant. Ce modèle dominant, qu'on le veuille ou non, pose un problème grave à notre société. Alors, je le dirais notamment, pose un problème grave à notre société au niveau de la troisième devise de notre République, que je n'ai pas encore évoquée. Cette troisième devise, vous la connaissez comme nous, et on en parle très peu, on parle beaucoup de liberté, beaucoup d'égalité, mais on parle pratiquement jamais de fraternité.
Nous en avons parlé mardi dans l'émission spéciale Traversée avec Cédric Héroux, qui était là dans l'émission, et donc vous pouvez retrouver le podcast sur www.espritoccitanie.fr. Et effectivement, c'est un mot qui a été oublié.
Et donc pour juste, parce que je pense qu'on arrive au bout peut-être, là non, ça va encore.
Mais oui, ça va.
Alors
encore.
Je peux rester encore un peu.
Oui, tout à fait.
Pour ce qui concerne donc ce troisième aspect que j'ai évoqué, ou quatrième, puisque j'ai parlé du sacré entre les deux, sur cet élément de la fraternité, il y a quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure quand j'ai parlé des apprentis. Hein, comment arriver à avoir une éducation fraternelle qui intègre tout toutes les formes d'intelligence, toutes les formes qui permettent à un être de se développer avec toutes les qualités avec lesquelles il arrive, et surtout un être qui arrive avec ce sens d'un monde qu'il veut apprendre et découvrir. Et donc, pour cette fraternité, pour moi, la diversité des matières, le non-redoublement et même le non-classement des enfants est un élément fondamental. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous acceptons que l'école n'est pas là pour sélectionner une élite, ce qui est le cas malheureusement de l'école publique et même privée aujourd'hui, hein, les deux ensemble, de l'école conventionnelle, on sent qu'à travers le bac notamment, à travers la notation permanente dans une scolarité, eh bien, ce qui se dégage, c'est la création d'une élite. Je vous renvoie au rapport PISA encore une fois. Et là, eh bien, on n'est pas du tout dans la fraternité. On est vraiment dans la continuation du même système qui a été mis en place petit à petit dans un cadre idéologique normalement tout autre. Hein, c'est-à-dire la Révolution française quand même nous a amené ces trois notions qu'on a évoquées, liberté, égalité, fraternité. Dans la réalité, nous avons fortement oublié cet aspect qu'on appelle la fraternité, donc qui peut se développer d'autre part autrement, la coopération, l'acceptation et surtout, au contraire, la richesse de la diversité. Et donc, dans notre modèle, aujourd'hui, notre modèle d'éducation en France, il est urgent, absolument urgent, de développer l'acceptation qu'il doit y avoir une autonomie des établissements et une diversité des approches, tout en gardant l'État, bien sûr, qui doit réguler les excès dans ce domaine-là.
Joël ?
Et où l'on retrouve une des valeurs de base qui est celle de cette émission, à la compétition, nous préférons la coopération.
Tout à fait, j'allais le dire. Tu m'as...
Eh bien, nous sommes en phase. Nous sommes totalement en phase avec le collège Les Tournesols.
Ce que j'ai entendu aussi à un moment de ce que vous disiez, c'est d'une part, effectivement, que ici, je dirais, sur un des principes de base de cette émission, d'essayer de montrer, on va dire, pour reprendre un slogan, qu'un autre monde est possible, non seulement qu'il est possible, mais qu'il commence à exister, à germer, et qu'il y a déjà de belles expériences qui s'y mènent. Ce que j'entends aussi, c'est qu'on est là typiquement dans un type d'éducation qui n'est pas celle d'un transfert de savoir, de connaissances, ou d'un transfert d'être formaté, qu'il conviendrait d'intégrer sans le discuter, et que l'on retrouve plutôt du côté de l'éducation nationale. Mais ce que j'entends aussi, et c'est aussi positif, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, y compris dans l'éducation nationale, avec ses normes, quand même, un bon nombre d'enseignants ont pris de la distance avec ça. Et c'est intéressant parce que je me souviens que nous avions reçu il y a quelque temps une représentante de l'école Montessori et qui insistait beaucoup là-dessus en disant « Dans l'éducation nationale, il se passe aussi des choses, il y a des évolutions, il y a des enseignants qui prennent conscience et qui s'autorisent à s'éloigner un peu du modèle dominant qu'on leur impose. »
Mais il y a un danger, c'est que demain, on leur mette une puce sous la peau pour les manipuler.
Alors, je voudrais aller dans le même sens. De toute évidence, donc, j'étais dans une grande école de 400 élèves en région parisienne pendant 25 ans, hein, une école Steiner. Et nous avons beaucoup collaboré avec les établissements autour. Nous étions sous contrat, nous sommes aussi sous contrat au Tournesol, mais juste sur une classe pour l'instant. On attend, on nous a promis un deuxième contrat, favorablement, mais il ne vient pas. Et donc, nous espérons que nous allons... Parce que notre but n'est pas du tout de rester en marge. Notre but est de devenir l'école de la République. Voilà notre but. Hein, c'est fondamental. C'est-à-dire être l'école de la laïcité, être l'école de la République elle-même, avec tous ses aspects, vraiment de l'égalité aussi, mais de la vraie égalité. Pas cette égalité un peu... intellectuel, hein, qui consiste à dire il faut être seulement égaux en droit. Bien sûr, il faut favoriser cet aspect d'être égaux en droit. Mais quels outils on se donne pour ça ? L'école est le premier outil qui va permettre d'exercer, donc je vous ai dit au départ, le chemin vers la liberté, qui est un chemin qui n'est pas acquis au départ. Hein, le chemin vers la liberté en se connaissant, l'être se connaissant et connaissant son environnement et se sentant partie prenante de son environnement, ça, c'est le chemin de la liberté. Et donc, voilà, ce que j'accepte de moi-même et de sacrifier de moi-même ou au contraire de développer de moi-même, ça, c'est la liberté. Le deuxième aspect, le chemin de l'égalité, c'est-à-dire, quelles que soient mes capacités, je dois pouvoir à tout moment de ma croissance, eh bien, avoir tous les enseignements. Et non pas qu'on me les supprime parce que je n'ai pas été bon en maths et en français au départ. Parce que ça, c'est tout le drame aujourd'hui des collèges d'attente, hein, les SECPA, toutes ces classes d'attente, où réellement l'enfant n'a même plus le droit d'apprendre des choses fondamentales qui peut-être pour lui seraient déterminantes, la physique, la chimie par exemple. Dans ces sections, il n'y a plus tout ça. Donc ça, c'est assez grave. Ou la technologie, etc., qui le sauverait certainement, ou en tout cas, qui lui permettrait de s'exprimer lui-même. Ça, c'est un aspect. Donc sur l'égalité, la diversité des intelligences, qui a comme réponse la diversité des matières, l'extrême diversité des matières, artistiques, scientifiques, etc., et manuelles, surtout, ce qui est le grand oublié de notre éducation conventionnelle, les activités manuelles, qui sont pour nous le prologue indispensable au développement d'une pensée saine. Travailler les mains, travailler avec les mains au départ, ce qui permet ensuite de travailler vraiment avec sa pensée et son esprit, d'une manière beaucoup plus saine. Pour nous, c'est une clé. Nous avons beaucoup d'écrits là-dessus, beaucoup de recherches. Il y a un corpus extraordinaire de recherches dans notre milieu des écoles Waldorf, dans le monde entier, en allemand, en anglais et dans toutes les langues, où nous développons ces aspects-là. Mais je ne veux pas faire de prosélytisme, ce que d'autres font très bien aussi, peut-être pas dans ce domaine-là. Et enfin, la fraternité, qui pour moi est l'aboutissement de ma culture personnelle, hein, c'est-à-dire la fraternité, c'est l'amour de l'autre. Hein, ça débouche là-dessus, c'est fondamental. Cette fraternité, eh bien, elle est la clé à travers la coopération, l'écoute mutuelle, le travail ensemble, la reconnaissance de l'autre.
Donc tout un programme, et merci, mais juste quand même un contact, parce que j'avais vu qu'il y avait encore quelques places de disponibles pour le collège, sauf erreur de ma part. Donc comment fait-on éventuellement si des auditrices et des auditeurs sont intéressés pour inscrire leur enfant ?
Alors, nous sommes une école évidemment alternative, donc privée, mais enfin nous on voudrait être considéré comme public, mais on est privé, et nous vivons essentiellement, nous payons nos professeurs à partir des cotisations que payent les parents. Nous avons quelques subventions, mais très très peu, hein, puisque on n'est pas, même si on a une classe sous contrat. Et donc là, nous voulons ouvrir une classe de 5e, mais nous n'avons pas encore assez d'élèves. à ce jour, parce que nous nous sommes pris un peu tard cette année dans nos déclarations et dans notre publicité. Donc c'est pour ça qu'on vous remercie beaucoup de nous avoir invités, car l'esprit que vous portez correspond tout à fait à l'esprit que nous avons dans ces écoles, profondément. Le lien avec la nature, le lien avec Pierre Rabhi, le lien avec des grandes personnalités, y compris le lien qui est entretenu à travers les langues locales, etc. Pour nous, ça c'est fondamental, et la culture, là où on vit. Hein. Eh bien, nous avons besoin encore d'avoir quelques élèves, et donc nous avons reçu beaucoup de parents hier, par exemple, mais tous ne vont pas inscrire leurs enfants. Donc, jusqu'à mi-juillet, nous sommes ouverts à ce que les parents appellent et nous disent, je serai intéressé. Donc, il faut pour cela aller sur Internet, regarder École Les Tournesols ou École Steiner Waldorf Toulouse, et vous aurez le contact aussitôt et on vous recevra très volontiers.
D'accord. Alors, notre gouvernement actuel a beaucoup de progrès à faire, puisque, donc, je rappelle, nous avons reçu mardi en direct Cédric Héroux, qui est le paysan qui a accueilli chez lui, du côté de la vallée du Roya, plein de réfugiés. Il y en a encore. Et il a été, pour cela, condamné pour délit de solidarité.
Hein, voilà. Donc, voilà. Les paradoxes de notre société. Vraiment les paradoxes de notre société. Mais voilà. Donc pour nous, nous pensons profondément que c'est par l'éducation que nous préparons une nouvelle société. Pour nous, c'est fondamental. Et malheureusement, le système, comment dire, apporte une notion évaluation, notation, et la meilleure des préparations pour le capitalisme. Je terminerai là-dessus, je sais que c'est un peu agressif, mais il se trouve quand même que ce système-là fait qu'on met très tôt les enfants en compétition les uns avec les autres par l'établissement d'une norme auquel on les ramène. Et ça, c'est une grave erreur morale.
Tout à fait, mais ça arrange bien, donc toujours pareil, certains dirigeants de transnationales et dirigeants aussi du monde actuel. Et la preuve, en France, tous les projets individuels ont été acceptés ou presque à Notre-Dame-des-Landes, mais pas les projets collectifs.
Voilà, eh bien écoutez.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Parce merci. Que la discussion était très intéressante et enrichissante.
Merci de m'avoir invité. Je vais retourner avec mes élèves qui m'attendent. Voilà, donc d'accord. Je fais une petite pause. Heureusement, on a d'autres personnes dont on travaille en équipe.
Mais la prochaine fois, possible. Pour venir avec les élèves.
Eh bien, volontiers. Ouais. Avec quelques élèves, voilà. Volontiers, absolument volontiers, car on leur apprend à s'exprimer et théoriquement, ils aiment bien.
Mmh. Très bien.
Pas tous, mais oui. Certains. Hein merci beaucoup et en tout cas, je vais maintenant écouter votre radio, parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas eu l'occasion. Je pense que c'est assez passionnant, vos débats. Voilà.
Merci beaucoup. Avec plaisir et merci d'être venu. Donc jusqu'à nous. Et donc Joël, je te passe le relais.
Et oui, on va essayer de positiver un peu, parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'inquiétant dans cette République quand on en arrive à avoir un délit de liberté, d'égalité et de fraternité. Peut-être par contre, Valérie, qui était là depuis le début et qui a écouté sagement ce que disait Xavier, aurait peut-être, juste avant qu'il parte, une remarque ou une question, parce qu'on a bien compris que tout ce que tu as présenté dès le départ de ton association, fait quand même écho.
Ça fait écho, et c'est vrai que peut-être simplement dans ma matière, qui est le français, langue étrangère, c'est un détail par rapport à toutes les matières enseignées, mais malgré tout, j'ai toujours pensé que le français, langue étrangère, pourrait donner des idées au cours de français traditionnel, parce qu'on est beaucoup plus sur l'ouverture, sur l'écoute et sur l'utilité de la langue plutôt que des normes et quelque chose de très répressif dans les cours ou de très, très stigmatisant dans les cours au collège, effectivement. Et donc, par expérience, mon fils me dit souvent quand j'aurais préféré avoir des profs de français langue étrangère au collège, je ne parle pas du lycée, au collège, parce que c'est vraiment effectivement une ouverture différente. Mais c'est vraiment par rapport à ma matière, il y a des ponts qui devraient se faire dans effectivement par rapport à l'enseignement. Mais le partage, effectivement, et donner confiance aux personnes plutôt que de les stigmatiser, c'est la base pour moi d'un bon enseignement.
c'est bien ce que l'on avait compris de tout ce que tu nous as expliqué au départ sur la manière dont fonctionnait ton activité et ton association.
Oui, on essaye effectivement à chacun on a des personnes qui avancent difficilement, juste pour reprendre les personnes de l'association, on a des personnes qui ont des difficultés parce qu'elles ont eu des difficultés psychologiques, parce qu'elles ont des parcours difficiles. Je pense à un jeune, par exemple, qui est avec nous depuis 2 ans et qui apprend très peu. Par contre, il apprend au niveau bien-être social et on voit qu'il s'intègre différemment. Mais effectivement, on n'est pas à demander des résultats de langue, linguistique par rapport à ça. Et à un moment donné, je suis persuadée qu'il va avoir un déclic et qu'il va se mettre à apprendre. Pour le moment, effectivement, c'est douce, c'est une progression très très douce. Mmh. Mais c'est pas l'important, effectivement. Ça peut dérouter certaines fois certains bénévoles quand ils arrivent, parce que certaines personnes ont vraiment une progression très douce. Et puis après, tout le monde admet qu'effectivement, ça n'est pas l'objectif. Après, certains avancent très vite parce qu'ils ont des facilités, parce qu'ils ont des disponibilités psychologiques. Et puis, ça, c'est aussi important, cette disponibilité.
D'accord. Alors, juste, Joël, avant d'accueillir ta nouvelle invitée, Brigitte Laval, de la compagnie Les Semeurs de Mots, et tu en fais partie aussi, et tu fais partie de l'ADVO, donc Association pour le Développement, que tu présides des villages d'Ushagram en Inde, plein de choses. Juste une info, Toulouse en transition, marché Saint-Cyprien, c'est demain samedi 30 juin. Venez découvrir la confection de produits ménagers et cosmétiques maison avec des recettes simples et économiques. Donc, ça se passe Toulouse en transition. Nous allons écouter Lise Martin juste avant de présenter ta nouvelle invitée. Lise Martin, donc demain, qui était venue plusieurs fois dans l'émission Traversée. Et ici demain, allez, à tout de suite sur Traversée et Esprit Occitanie.
Ce soir, je n'ai pas envie de rire ni de parler. Ce soir, je n'ai pas envie de boire ni de fumer. Je ne veux pas m'enivrer pour rien, pour oublier. Je ne veux pas de mémoire, ni d'alcool à pleurer. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera. Le soleil veille tard et le sommeil ne vient pas. La douceur se fait rare sous le bruit de nos pas. Ce n'est plus pour partir, mais apprendre à rester. Je ne veux pas dormir, je ne veux pas rêver. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera. La chaleur est troublante, mais je ne veux pas danser. La musique est vibrante, mais je ne veux pas chanter. Je ne veux pas me perdre, je ne veux pas crier. Je ne veux pas d'espoir, encore moins de regrets. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera. Si c'est encore possible, s'il n'est pas trop tard, j'achèterai un livre, choisis-la au hasard. J'en lirai quelques lignes, puis le refermerai. Je ne veux pas m'asseoir, je ne veux pas penser. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera. Si les parcs ne sont pas déjà fermés, je choisirai un arbre sous lequel m'allonger. Et à travers les feuilles, le ciel viendra pleurer. Je ne veux pas vivre en deuil, ni mourir éveillé. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je me suis endormie et je rêvais de toi si une larme a coulé. C'était la pluie, je crois, je viens de m'éveiller. Et le soleil est là, le vent sur mon visage me caresse tout bas. C'est l'été sur mon île, je regarde ma ville, si belle ce matin-là.
Lise Martin, demain, quelqu'un d'adorable, auteur, compositrice, interprète. Je salue aussi la petite Nola et puis Simon également. C'est la bande à Lise, tout ça. Allez, Joël, donc tu es venu. Non, tu n'es pas venu puisqu'elle est venue toute seule, donc elle a su trouver le chemin jusqu'à l'émission à traverser sur Esprit Occitanie. Donc, pour nous parler des semeurs de mots, et en ce moment, avec justement le marathon des mots, eh bien, il va falloir en semer, et surtout certains qu'ils soient entendus, comme nous l'avons précisé et évoqué tout à l'heure avec notre invité. Marathon des mots qui aussi se déroule d'ailleurs à la librairie de la Renaissance, et ça débute dès le samedi 30 juin pour la Renaissance à 15h. Mais ce n'est pas le seul lieu, bien sûr, où les mots vont s'agiter. Donc, Joël.
Oui, donc nous accueillons effectivement Brigitte Laval, et je fais un gros effort de prononciation puisque Brigitte est une professionnelle de l'expression orale et de la diction.
Donc c'est en comme public. C'est comme au théâtre, quoi. Il faut bien articuler.
Bague dit Beaufu.
Oui, 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 Joël est d'ailleurs un élève exemplaire, je tiens à le souligner.
Ce n'était pas un appel à compliment.
Mais il n'y a pas de compétition dans notre groupe, bien
voilà,
sûr.
Je sens qu'on est dans la continuité de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Jusqu'à présent.
Alors, mais quoique, l'évaluation...
c'est le public et c'est ceux qui seront présents qui la feront d'eux-mêmes. Alors, avant quand même que l'on aborde effectivement le pourquoi tu es là... Je dois juste rappeler que tu étais déjà là, et oui, il y a un mois, pour, dans un contexte très particulier, puisque nous recevions également ce jour-là Marie-Hélène Younes, qui est une écrivaine locale qui parlait du livre qu'elle venait d'écrire, « Leur chemin », en compagnie de son éditeur Hasard Atelier Édition, et que toi, tu étais là pour parler également du livre qu'a écrit ton père, malheureusement récemment décédé, qui s'appelle « Une vie la plume à la main ».
Oui.
Et puis... j'ai totalement oublié, et là je me tape sur les doigts, de te demander de nous préciser comment on pouvait trouver ce livre. Donc j'essaye de me racheter, séance rattrapage, comment peut-on trouver ce livre, Brigitte ?
En fait, on peut le trouver en ligne, hein, c'est puisqu'il était passé par une maison d'édition en ligne, qui le nom c'est Edit Livre, voilà. C'est la seule précision que je peux apporter.
D'accord.
Ensuite... On le trouve aussi à la bibliothèque départementale du Lot, dans le fonds régional, puisqu'il était originaire du Lot. Et d'accord. La bibliothèque a tenu à avoir des exemplaires de son récit de vie, si je peux dire. Voilà.
Ok, eh bien, merci pour cette précision. Voilà, on s'est racheté. Et maintenant, donc, on peut revenir à notre émission d'aujourd'hui et à ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Donc, Christian l'a dit, le marathon des mots qui a commencé hier, d'ailleurs, puisque c'est sur 4 jours. Je te laisse peut-être repréciser ce qu'est cette manifestation littéraire qui en est à sa 14e édition.
Donc, c'est un... comment dirais-je ? Le marathon est arrivé sur Toulouse en 2000. Non, en 2004, je veux dire. Oui, 14 années. C'est un projet donc, qui a été lancé par... Le frère du grand présentateur PPDA, donc son frère s'appelle Olivier Poivre d'Arvor, et il voulait donner, comment dirais-je, pouvoir faire entendre la voix des écrivains à travers notamment la lecture à haute voix qui n'était pas encore très à la mode à l'époque. Et il avait cherché plusieurs villes en France qui pourraient l'accueillir, et c'est la ville de Toulouse qui l'a accueilli. Alors, juste une petite anecdote, moi j'ai créé ma compagnie Laissez-moi de mots, j'ai commencé à faire des lectures à haute voix en 1996, La première lecture spectacle que j'ai faite, c'était autour de la guerre d'Espagne. Je me souviens, c'était la ville de Balma qui m'avait demandé où je faisais des ateliers de théâtre pour la commémoration de la guerre d'Espagne, donc 1936-1996. Et c'est vraiment la date de naissance de ma compagnie, est en lien avec l'histoire des républicains. Je trouve ça intéressant. Mmh. Si on pense à ce qui a précédé, ce que disait l'intervenant précédent sur ce thème de l'égalité, de la fraternité, etc. Donc ensuite, notre projet, c'était justement ce mort de mot de répandre et de diffuser le plus largement possible le goût de la lecture, des livres, à travers justement les lectures à haute voix, parce que moi je viens du théâtre et le théâtre demande des moyens importants, ne serait-ce que une scène, des éclairages, alors que la lecture avec un livre, on peut aller n'importe où, on peut s'asseoir sur un banc public et lire, on peut, d'ailleurs nous avons fait des lectures un peu dans tous les contextes, on en a fait sur des places publiques de village, on en a fait dans un refuge de montagne, enfin c'est la liberté, moi je tiens beaucoup à cette liberté. L'intervenant précédent parlait des chemins de la liberté. Je crois que le livre, c'est ce qui peut permettre à chacun d'ouvrir son regard, de comprendre, de se comprendre et de comprendre les autres, et notamment se comprendre à travers l'autre. Ça, c'est extraordinaire. C'est une expérience magnifique, je trouve. Je me souviens d'une lectrice, une jeune fille de banlieue, qui disait moi, je me suis en quelque sorte, comment dirais-je, je me suis construite aussi à partir de mes lectures, et notamment à partir de la lecture des Trois Mousquetaires. Alors c'est extraordinaire, c'est ça qui est beau. Je crois que c'est Toni Morrison qui dit la littérature, c'est ce qui permet de faire tomber les murs entre les êtres. Bon, et notamment, elle dit aussi, c'est donner aux déshérités, rendre aux déshérités leur profondeur et leur richesse. Et ça me permet de faire un lien avec l'auteur que nous allons lire, qui s'appelle Concesan ou Evaristo, qui est née donc dans une favela dans les années 50. Elle a grandi dans une favela extrêmement déshéritée, comme vous le savez sans doute, bidonville, hein, c'est l'équivalent du bidonville. Elle est née en 1949 et à 8 ans, elle a été obligée de quitter l'école alors qu'elle aimait l'école, elle avait envie d'apprendre, comme je pense tous les enfants ont envie d'apprendre. C'est les chemins pour apprendre qui parfois sont des obstacles au lieu de le favoriser. Donc elle est née dans cette favela, elle a travaillé dès l'âge de 8 ans. Et ensuite, elle a réussi à reprendre des études, je ne sais pas encore comment, je ne l'ai pas encore rencontrée. Elle est devenue institutrice et elle dit que pour elle, c'est donc une descendante d'esclaves, hein, une afro-descendante, et elle dit que l'écriture est une forme de vengeance, de revanche. Je viens d'une rencontre là avec des écrivains brésiliens et l'un d'entre eux disait que l'abolition de l'esclavage au Brésil, c'est le pays où elle a été la plus tardive, en 1888, et qu'ensuite on n'avait rien fait pour intégrer justement les esclaves dans la société. Puisqu'ils n'avaient reçu aucune éducation, on n'a pas mis en place justement de projets, de plans d'éducation, de formation, ce qui fait que plus d'un siècle après, on se retrouve à peu près avec les mêmes difficultés, les mêmes obstacles, et notamment, bien sûr, pour les Afro-Brésiliens.
Je reviens une toute petite seconde, donc on va revenir bien évidemment, parce que c'est quand même aussi pour parler de ça que tu es là, sur donc Concesão, voilà, disons-le proprement, Evaristo. Un petit retour en arrière quand même sur le marathon des mots pour redonner quelques précisions. Donc on l'a dit, ça a commencé jeudi et ça se termine dimanche. Mm-hmm. Donc d'une manière générale, cette manifestation, ça prend la forme de lecture.
Oui, publics, de lecture publique et de rencontres.
Et de rencontres avec les écrivains, de ouais. débats éventuellement ouais. avec certains écrivains. Alors à une époque, il y avait un reproche qui a été fait au tout début, c'est que les lecteurs, ceux qui font ces lectures, c'est généralement des acteurs parisiens sans connotation méchante derrière ce qualificatif, mais qu'on faisait venir souvent quand même à renfort de rémunération, et que le reproche qui était fait, c'est qu'on ne laissait pas beaucoup de place aux initiatives locales. Donc, ce que fait les semeurs de mots, je dirais, c'est un peu le petit village gaulois qui résiste, et c'est un petit peu l'exception là-dedans, puisque donc là, on a une initiative locale, dont je ne reviens pas sur ce que tu as dit sur ta compagnie et comment
puisque notre projet, j'ai commencé à en parler, c'était, donc je le disais, d'élargir l'accès à la lecture, à l'écriture, enfin aux livres. Et notamment, on avait monté un projet il y a plusieurs années, c'est drôle, ça fait plus de 10 ans maintenant, qu'on avait intitulé « Vivre, lire ensemble dans la cité ». Donc, on l'avait proposé à la mairie et on nous avait dit « on n'a pas le budget suffisant ». Je n'ose pas vous dire quel était notre budget. C'était tellement... D'ailleurs, maintenant, réflexion faite, je pense que nous aurions dû proposer un budget 10 fois supérieur. Voilà. Peut-être que ça aurait été accepté.
Eh oui. Ça faisait pas sérieux.
C'est les paradoxes, voilà, c'est ça. Alors que justement, c'est exactement le projet du marathon. On voulait faire des kiosques à lecture dans la ville, des rencontres, enfin, etc. Donc, on est intervenu, on a commencé dans le quartier Croix-d'Aura, des Isards. On faisait des ateliers de lecture à haute voix pour toute génération confondue, en montant ensuite des lectures publiques. On est intervenu dans des collèges, dans des classes du SECPA, justement. Si je me réfère à nouveau à l'intervenant précédent, qui ont participé à ces lectures finales publiques. Donc. Et comme nous intervenions aussi par ailleurs sur le Marathon des mots, pendant quelques années, moi j'aurais voulu faire la jonction entre les deux projets, les deux actions. Ce qui a été quand même, ça a pris plusieurs années pour qu'on soit entendu. Bon, il y a eu un changement de municipalité et du coup ça a fonctionné, c'était il y a 6 ans, 7 ans. Voilà, donc maintenant notre banquet littéraire attire beaucoup de monde parce que c'est une forme, c'est vrai, assez, comment dirais-je,
originale,
et puis dans laquelle surtout il y a une proximité avec les gens, avec le public. Il n'y a pas de séparation, scène-salle, on ne travaille pas avec des micros. Et puis, on fait tout un travail en amont avec un atelier de lecture à haute voix qui est ouvert à tout le monde, quelle que soit sa capacité de lecture. Enfin, j'ai déjà employé ce terme de capacité. Je veux dire, chaque être humain est un être parlant et donc peut parler, quelles que soient les circonstances ou l'éducation, la formation, la culture. Voilà.
D'accord. Donc, ce qui caractérise, encore une fois, la prestation des semeurs de mots dans le cadre du Marathon des mots, c'est effectivement d'abord que ça part du local. Toi, tu es une compagnie locale. Que c'est le résultat d'un atelier avec tout un travail qui se fait à l'amont avec des amateurs qui ont envie de lire publiquement. Que c'est un lieu qui n'est pas neutre non plus, c'est-à-dire le Centre culturel des Chamois, et on a eu l'occasion déjà d'en parler quand on a évoqué l'activité de Valérie avec notre ami Atem Ben Ismaël, là, qui joue un rôle extrêmement important dans ce quartier et dans ce centre culturel.
Depuis des années.
Et on espère que ça va continuer longtemps. Que c'est également un banquet littéraire, effectivement, qu'on associe au plaisir de l'oreille, le plaisir des papilles.
Oui, voilà, exactement, les mots et les mets.
Les mots et les mets. Et que, précisons d'ailleurs, le repas, tout est gratuit d'ailleurs, participation à la lecture et le repas, et que le repas est en lien avec l'auteur qui est présenté. Voilà. Donc là, l'auteur étant brésilien, ce sera un plat brésilien. Oui. Et rappelons pour principe aussi, pour ceux qui ne connaissent pas trop, que le Marathon des mots, donc une de ses caractéristiques tous les ans, depuis 14 ans donc, c'est de proposer des lectures publiques et des rencontres autour d'un thème, et qui est généralement une langue ou une partie du monde ou un pays ou un certain nombre de pays. Et que donc cette année, c'est le monde lusophone, donc portugais. Et cette langue qui aujourd'hui se parle sur au moins 3 continents, l'Europe, l'Amérique latine avec le Brésil, et puis donc l'Afrique avec l'Angola et quelques autres pays.
Oui.
Et que donc chaque manifestation comme celle que tu animes traite d'un auteur. Et donc, la caractéristique de ce que tu fais, c'est qu'on part d'un auteur et d'un livre. Mais que ça, tu peux...
Oui,
tu
en dire un petit peu
plus. On va au-delà de cet auteur et de ce livre.
Voilà, en fait... On part d'un auteur, donc on nous, en général, quand il s'agit, par exemple, on nous a dit cette année, ça va être des écrivains lusophones, donc on a commencé à regarder un peu, à chercher, et puis le marathon nous propose des écrivains, donc on réfléchit, on regarde un petit peu le type d'écrivain qui peut nous intéresser, et là, cette année, donc, on a Conceição Evaristo, qui est, comme je l'ai expliqué précédemment, afro-brésilienne, et ça nous intéressait de travailler sur une, comment dirais-je, une écriture qui n'a pas, de, on peut dire, encore de reconnaissance et de place officielle. C'est évident. La plupart des écrivains, je vois les écrivains qui sont accueillis là, brésiliens, ils sont tous blancs, enfin, issus de milieux plutôt favorisés. Et donc, c'est intéressant pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de ségrégation. On ne va pas refuser de lire des gens qui sont issus de milieux favorisés, etc. Ce n'est pas la question. Mais ça nous a paru vraiment intéressant. En plus, c'est une comment dirais-je, une activiste féministe. Le féminisme, si on se réfère, je ne sais plus à quelle, je crois que c'est Chimamanda Ngozi Adichie, la grande écrivaine nigériane, qui a dit que le féminisme, c'est permettre à chacun de vivre comme un être humain à part entière. Non pas femme, c'est-à-dire à moitié être humain, ou femme noire, c'est-à-dire un quart d'être humain, mais être humain, pleinement être humain. Ce qui rejoint la pensée de Steiner, etc. Donc, une femme féministe, défenseur donc, de la cause noire au Brésil, qui, comme je vous l'ai dit, la condition des Noirs ne s'est pas beaucoup améliorée au Brésil. C'est absolument stupéfiant. Il paraît même, je viens de l'apprendre par un écrivain brésilien, qui disait que le gouvernement brésilien a diminué le budget consacré à l'éducation au Brésil. Donc, comment vont-ils sortir comment toutes ces populations vont-elles sortir de la misère et de l'ignorance. Enfin, c'est pathétique.
Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le Brésil est dans une situation un peu inquiétante, parce qu'après quelques années d'espoir avec Lula, le Parti des Travailleurs, et malgré toutes les limites qu'il y a pu avoir, ça a quand même été une opportunité pour les déshérités de redresser un peu la tête. Et là, on est manifestement reparti dans le sens inverse, avec un système de moins en moins démocratique. Et de moins en moins favorable aux déshérités, précisément.
Exactement, oui, une régression. Massive, hein, très, 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 très grave. Ah, oui. Donc, je voulais proposer de lire un petit passage. Est-ce que c'est le moment, Joël,
plaisir,
ou bien tu voulais peut-être aborder...
Quand il s'agit de faire des choses intéressantes et intelligentes, tous les moments sont opportuns, donc nous t'écoutons. Donc, tu nous lis un passage du livre...
Le livre qu'on va lire principalement, dont le titre est « Banzu ». Donc, j'en ai parlé avec... on le précisera plus tard, mais j'en ai parlé avec Rita Macedo, qui est brésilienne installée en France depuis 30 ans.
Chanteuse et musicienne.
Voilà, et qui sera là avec nous.
Oui, parce que je me permets une petite parenthèse. C'est vrai que, outre les spécificités de ce que présentent les semeurs de mots, avec le fait que c'est le résultat d'un atelier, que c'est collectif, qu'il y a un repas et tout... La présentation, la mise en spectacle, quelque part, qui est faite de cette lecture, elle s'accompagne également de moments musicaux avec des musiciens brésiliens et dont la grande Rita Macedo.
Ah oui. C'est...
Donc si vous ne venez pas pour les semeurs, venez au moins pour Rita.
Oui, merci Joël. je reconnais là ton esprit facétieux. Donc, le passage que je vais lire, il s'agit il y a plusieurs personnages, puisqu'elle décrit dans ce livre Banzu, donc comme je l'ai dit plus tôt, Rita Macedo m'a dit que ça, c'est l'équivalent du blues, en fait.
Oui, c'est
le blues comprendre. Brésilien, mais un blues qui affectait les esclaves, puisque quand ils se retrouvaient donc, dans cette terre inconnue, langue inconnue, culture inconnue, arrachée à leur milieu, à leur famille, à leur langue, enfin, c'est inouï. inouï, c'est proprement inouï. Ils étaient frappés d'une sorte d'état de sidération. Alors, je voulais dire stress post-traumatique, mais post-traumatique, c'était aussi traumatique et pré-traumatique, parce que tous les traitements qu'ils allaient subir, c'est inimaginable. Chaque année, l'an dernier, on avait travaillé sur Haïti, donc on avait lu aussi beaucoup de livres sur l'esclavage. Enfin, on croit savoir, mais en fait, on ne sait qu'une infime partie de la façon dont des êtres humains peuvent en traiter d'autres. C'est absolument.
Et donc, il y a eu tout récemment, et tu étais référé également dans la préparation de cette lecture, une série d'émissions particulièrement intéressantes sur Arte, sur l'histoire de l'esclavage, et d'ailleurs qui avait été repris hier à l'espace des diversités.
C'était hier,
puisque nous sommes vendredi, donc c'était jeudi, où à l'espace des diversités était présenté justement un extrait de ces films qui avaient été faits par Arte. Et c'est vrai qu'on a beau croire savoir, on est toujours quand même étonné de la brutalité de ce qu'a été l'esclavage.
Excuse-moi, Joël, je vais te contredire. Tu ne vas pas apprécier.
Non, mais je t'en prie, on est là pour se contredire aussi si besoin.
Mais c'est demain soir.
Mon Dieu.
C'est ce soir, pardon, vendredi 29. Non, je y insiste parce que ce documentaire est absolument remarquable.
Exact.
Et il se trouve que est présente Conceição Evaristo, qui justement va certainement dialoguer avec le public. Donc c'est une soirée vraiment exceptionnelle consacrée à la traite négrière.
Tu fais bien de rectifier.
Voilà, c'est à l'espace diversité laïcité à 20h30. Je vous conseille vivement d'y aller si vous n'avez pas pu voir le documentaire sur Arte. Donc, pour revenir à Banzhou, donc elle décrit dans Banzhou la vie dans une favela dans les années 50. Enfin, ça n'a pas beaucoup changé maintenant. Et c'est une sorte de... Enfin, ça m'ennuie de dire ça. Je ne sais pas si elle apprécierait, parce qu'elle dit toujours qu'elle fait un travail d'écrivaine, donc de littéraire, de fiction. Mais c'est un peu une autobiographie à travers tous les personnages qu'elle décrit, qu'elle a connus, même si elle a fait tout son travail littéraire. Et notamment une petite fille qui s'appelle Tite Maria et qui est sans doute une partie d'elle-même, un reflet d'elle-même, puisque c'est une enfant qui va à l'école et qui aime l'école, qui aime apprendre, qui aime lire. Donc je vais lire ce passage. Juste avant de commencer, une petite explication. La rue Cazenègre, il est question de la rue Cazenègre dans ce passage. Je précise que c'est la rue... Ça désigne Cazenègre, l'habitation des esclaves dans les plantations. On l'utilise aux Antilles aussi. Et donc, c'était, vous savez, des grands baraquements, en fait. Des baraquements en bois dans lesquels ils dormaient sur des paillasses en feuilles de maïs. Enfin, c'était extrêmement rudimentaire. Et elle fait la comparaison avec la favela. Je vous lis le passage. À cette époque, elle venait de rentrer au collège. Elle avait lu et appris ce qu'était la maison de maître. Elle avait eu envie d'en parler à sa maîtresse. Elle voulait citer comme exemple de maison de maître le quartier chic voisin et comme exemple de rue Cazenègre la favela où elle habitait. Au moment d'ouvrir la bouche, elle regarda sa classe et la maîtresse. Elle chercha dans le groupe un soutien, ne vit qu'une élève noire. Elle la regarda, mais l'autre écoutait le cours d'une oreille distraite, comme si le thème de l'esclavage n'avait rien à voir avec elle. Elle se sentit mal à l'aise dans une classe de 45 élèves, deux noires, et si distantes l'une de l'autre. Elle garda la bouche fermée et ses pensées pour elle. Favela Cazenègre, favela Cazenègre.
Je ne sais pas si tout est dit, mais en tout cas, beaucoup est dit et donne une idée, effectivement, de l'écriture et de ce que nous rapporte Conceição. Tu disais donc une part autobiographie. Je crois qu'elle dit elle-même, j'ai lu ça quelque part dans un article à son propos, qu'elle parle de l'écrit-vie.
Oui, ah oui, oui, oui.
Donc, oui. Effectivement, c'est bien ce qu'elle... Son objectif, c'est effectivement d'écrire pour témoigner... et pour rapporter ce qu'elle connaît, ce qu'elle a vécu et ce que connaissent, ont vécu tous ces afro-brésiliens, tous ces descendants, effectivement, comme tu l'as dit, des esclaves, ah oui. et toutes ces femmes. Parce que je crois que, effectivement, tu l'as dit, on le rappelle, outre l'écrivain et le remarquable écrivain qu'elle est, même si elle n'est pas très connue, c'est aussi une militante active de la cause des Noirs et de la cause des femmes. Et on peut citer aussi, donc tu citais Banzou, le livre qui fera l'objet donc de cette lecture. Elle a écrit aussi d'autres livres, tu l'as dit, dont un qui s'appelle L'histoire de Poncia, et un autre qui vient de paraître il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Insoumise.
Oui.
Et qui est tout à fait, d'abord, le titre veut quand même dire quelque chose.
Oui, oui.
Et qui est tout à fait intéressant en ce sens que le principe même de ce livre, c'est une rencontre de celle qui tient la plume avec 13 femmes qui habitent dans les favelas qu'elle a rencontrées et qui, assez librement, lui ont raconté leur histoire. Donc, c'est une histoire des femmes noires d'aujourd'hui dans les favelas à 13 voix, on peut dire.
Oui, alors, là encore, elle dit elle-même que elle a fait un travail d'écouteuse.
C'est ça.
Je trouve ça magnifique. Apprendre à écouter les autres aussi,
c'est avant de encore, parler.
Voilà. C'est, comment dirais-je ? Bon, elle précise quand même, parce qu'elle est intervenue sur France Culture mardi à midi dans la grande table. Donc on lui a posé la question par rapport aux insoumises, parce que quand on le lit, on croit que ce sont des personnages qu'elle a réellement rencontrés. Elle dit elle-même que, bon, elle s'inspire de gens réels, mais qu'elle a fait un travail d'écriture aussi, parce que ce sont des personnages parfois qui sont extraordinaires.
Absolument.
Vraiment extraordinaires.
Absolument.
Ce sont en général, bon, il s'agit toujours évidemment de femmes noires, mais qui refusent l'assignation au destin qu'elle devrait avoir normalement. Elle refuse la fatalité. Elle se battent. Elles ne vont pas se laisser imposer leur vie. Elles veulent inventer leur vie. Et donc, y en a une, par exemple, qui voilà, vous imaginez le contexte, hein, bidonville, etc., et qui veut danser. Et danser la danse classique. Elle veut faire de la danse. Elle veut danser. Et on lui dit, mais non, ce n'est pas pour toi. Elle dit, mais si, c'est moi, je veux danser. Et qui va parvenir à danser, à devenir une grande danseuse, etc. Il y en a une autre qui tombe amoureuse d'un blanc. Et ça aussi, c'est absolument inconcevable dans le village, la petite ville où elle vit. On ne peut pas... En fait, c'est le fils d'un grand propriétaire, en plus. Donc ça va à l'encontre de toutes les règles de la société brésilienne qui... est encore structurée selon les règles de l'esclavage, enfin, où des gens sont encore réduits à taillables et corvéables
à merci,
des serfs, une forme de servitude que l'on connaît encore actuellement. Donc c'est vrai que c'est magnifique, parce que ce sont des femmes résilientes, quoi. Oui. Et alors on lui posait la question l'autre jour, justement, j'ai écouté, on lui disait, mais où est-ce qu'elle puise cette force pour résister, justement, hein, à ce qui devrait être leur destin, hein, gravé dans le marbre, hein, quand on est dans une favela. Et elle a répondu, j'aime bien sa réponse, voilà, où trouve-t-elle la force, on lui demandait, et elle répond, c'est à partir d'une tradition ancestrale, ça vient de la première africaine amenée sur le bateau négrier, qui a émis son cri de révolte. Et elle dit, le blues est né des lamentations des femmes sur les bateaux négriers. Ça vient de ce passé lointain et du présent qui est encore très dur.
Ouais. Très, très beau.
Oui.
Et dans Banzo, d'ailleurs, il y a des personnages formidables. Enfin, c'est pas, c'est
il y a
pas,
une...
il y a pas de misérabilisme.
C'est ça.
Hein. Il s'agit pas, c'est
ça
pas Zola, hein, quand c'est ça ou Evaristo.
C'est dur, hein, c'est pas... violent, oui. Mais ce sont des gens qui sont debout, qui essayent en tout cas de vivre debout et qui ne se couchent pas. Et tu disais donc, elle, femme noire, elle a épousé la cause des Noirs, des Afro-Brésiliens et des femmes. Pour autant, ce n'est pas non plus un pamphlet contre les hommes, et notamment contre les hommes noirs. Parce que dans Banzo, on rencontre aussi le nègre Alirio,
Toto,
quelques personnages hommes aussi, qui eux aussi sont dans la résistance et qui sont aussi des beaux personnages.
Ah oui, 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 il y a le nègre Alirio, qui se fait appeler d'ailleurs le nègre, qui veut absolument qu'on joigne à son prénom le nègre. Il le porte comme un étendard, enfin, fièrement. Je suis le nègre à Lirio. Justement pour aller à l'encontre de toutes les idées reçues, de tous les stéréotypes. Et puis, en fait, c'est vrai qu'il y a aussi... Ah oui, mais j'ai plus le passage, je l'ai perdu, c'est dommage, je vais le chercher. Il y a un personnage que j'aime beaucoup aussi, c'est le personnage de femme, Dora.
Voilà. Qui est amoureuse de ce nègre à Lirio.
Ah oui, bien sûr. Alors, le nègre à Lirio, c'est un... Bon, voilà, c'est un homme libre qui a beaucoup d'histoires d'amour, mais quand il rencontre Dora, il y a quelque chose qui...
Entre être libre, il se retrouve.
Voilà. Alors, je peux le lire ?
Vas-y, même, bien sûr, vas-y.
Dora était une très belle femme, mulâtresse, grande... Des hommes qui voulaient la séduire chantonnaient cette musique. Dora, reine du Frevu et du Maracatu. Le Maracatu, c'est une forme de musique de cette région. Sa grande bicoque était à l'angle d'une ruelle qui bifurquait ensuite en trois ruelles, qui se séparaient ensuite en d'autres ruelles. Passer devant la porte de Dora était donc un passage obligé pour presque toute la favela. Dora était connue. Elle faisait partie des prieuses officielles de chapelet. Elle avait une voix forte et mélodieuse. Un corps mélodieux aussi. Les hommes tournaient autour de la bicoque et du corps de Dora. De temps en temps, elle avait un homme, un compagnon. Ils vivaient ensemble un moment, puis ils se séparaient. Je ne comprenais jamais pourquoi. On n'entendait pas de disputes, pas de pleurs. Ce qu'on entendait de dehors... Venant de l'intérieur de la bicoque de Dora, c'était des gémissements, des soupirs chargés de plaisir et d'amour. La nuit, ceux qui passaient devant chez Dora entendaient tout. Certains hommes collaient leur corps et leurs oreilles contre les murs. Et sous la lune et les étoiles, excités par les murmures de Dora dans les bras de son homme du moment et leurs caresses solitaires, il se laissait glisser contre la bicoque en mourant de plaisir.
Donc tu le disais, il n'y a pas que du désespéré et que du sordide dans ce livre.
Il y a du désir aussi.
Il y a aussi du désir.
Le désir de vivre, d'être vivant. C'est ça, voilà. Ce pourquoi elle écrit.
Ouais. Ouais. Et merci pour cette lecture. Et au passage, sans trop révéler de ce qui se passera dimanche, je crois que c'est un morceau qui sera lu pendant ce...
Ah oui,
par... Et j'en profite donc pour dire qu'il sera lu par Farida et... saluer et faire la bise à toute
l'équipe.
Farida, Michel, Elisabeth, Gilles, qui seront là et qui porteront autour de toi ce livre. Et puis aussi dire un mot peut-être de Sylvie, ton amie Sylvie.
Voilà, ma compagne, ma complice depuis maintenant 18 ans, qui a toujours... On a une amie qui nous appelle les baroudeuses de la lecture, parce que comme je vous le disais au début, on a semé les mots un peu le long des chemins, des pentes de montagne sur les places. Et voilà, Sylvie a toujours, comment dirais-je, ferraillé avec moi pour ferrailler.
Parce que c'est aussi un combat.
Voilà, c'est aussi un combat d'ouvrir le chemin d'accès à la liberté, justement de lire à l'égalité.
On y revient.
D'accès à la culture et de fraternité. Salut ma sœur, Sylvie.
Une grosse bise à Sylvie également.
Et toi, Joël ?
Pardon ?
Tu fais partie de l'équipe, il me semble. Tu ne seras pas là dimanche ? Tu as déclaré forfait ?
Je pense que je serai là aussi. Merci à toi. Je veux dire un mot aussi à propos des livres de Conchetsao. C'est son éditrice, parce que tous ces livres sont parus chez un éditeur, ou plus particulièrement une éditrice, qui s'appelle Anna Kaona.
Oui.
Et ce sont des livres très beaux, superbes. On a eu, quand tu étais là la dernière fois, l'occasion de parler de l'éditeur Hasard Atelier Édition, qui fait des très beaux livres. Là aussi, c'est des livres absolument superbes, très bien présentés, avec des superbes illustrations.
Super. Je suis vraiment pressée d'aller acheter Ombre Blanche en sortant.
Et cette éditrice qui est là aussi, en ce moment, et qui sera là demain, justement, entre 15h et 16h, à la Renaissance... Oui. On parle souvent de la Renaissance, qui sont aussi des partenaires.
Et donc, ils sont présents sur notre banquet littéraire. Ils viennent avec les livres qui seront en vente donc, sur place.
Donc, on peut supposer qu'ils seront présents à chaque fois que...
Oui, et l'éditrice également. Elle sera là dimanche.
Mais elle est à la fois traductrice et éditrice.
Voilà, elle traduira quand c'est ça.
Parfait. Mmh. Donc, on va en profiter pour dire où on peut entendre Conchetsao. Donc, tu l'as dit, Brigitte, on le répète, elle sera là ce soir entre 20h30 et 22h15 à l'espace des diversités, où on présentera également une partie du documentaire qui avait été fait par Arte sur l'esclavage. Ouais. Et il y aura lecture donc de son livre et d'un autre écrivain qui s'appelle Wilfried Ntsonde. Demain, donc samedi, de 15h à 16h, on vient de le dire, à la Renaissance, il y aura un échange, une conversation entre Conchetsao et Conchetsao, je vais y arriver. L'auteur. Oui. Et donc son éditrice, Paola Anacona. Voilà. Demain soir, de 19h à 20h, à Ombre Blanche, il y aura une rencontre donc avec l'écrivaine. Et puis demain soir également, là c'est de 21h30 à 22h15 à la Chapelle des Carmélites, il y aura une lecture donc, du livre Insoumise dont on a parlé, qui sera faite par Armel Abidou. Et puis donc, the last but not the least, le vendredi à partir de 12h.
Non, le dimanche,
Oh là là, le dimanche, non mais c'est une manière d'insister. Le dimanche de 12h à 13h15, donc lecture des Semeurs de mots, suivi d'un repas brésilien, lecture des Semeurs de mots avec Rita Macedo, avec d'autres musiciens, avec, et on peut dire aussi, notre ami Adriano, qui est un jeune Brésilien que nous avons rencontré ensemble au Forum des Langues avec Valérie.
Tout à fait,
grâce à Valérie.
Grâce au hasard qui vous a fait passer au même moment.
Oui, voilà, donc il y a quand même de beaux hasards dans la vie.
Tout à fait.
Et donc, peut-être un petit... comment dire, appel du pied à Valérie qui a dû se retrouver tout à l'heure dans ce qui était dit sur le fait qu'il faut écouter avant de parler et tout ce que l'on a entendu de ce que tu fais dans ton activité, je crois qu'on est bien là. Et donc, à propos d'Adriano donc, qui nous a fait, qu'on a rencontré ensemble au Forum des Langues, une idée est venue entre vous deux, qui est que peut-être pour l'année prochaine,
il
y a un projet qui serait absolument formidable. Si vous le menez à bien, il n'y a aucune raison. Je vous laisse le présenter.
Ce serait de faire une collaboration, effectivement, avec des étudiants volontaires de mon association qui pourraient venir faire des lectures.
Oui, c'est vraiment tout à fait dans le propos.
Ce serait fabuleux.
Donc, des apprenants qui sont en situation donc, d'alphabétisation par ton association.
Voilà.
Suffisamment avancé.
D'apprentissage de la langue.
D'apprentissage de la langue
française. Hein.
Voilà,
oui, c'est pas que des.
Parce qu'on a des Français langue étrangère, donc des gens qui déjà savent lire, écrire, mais qui ont le plaisir des mots aussi, et qui vont trouver le plaisir des mots en français avec une autre approche.
En passant par le plaisir de mettre les mots en bouche et de les savourer et de les partager.
C'est une belle consécration pour eux aussi d'avoir. Cette possibilité de s'exprimer
exactement.
En français.
Et c'est un beau partenariat entre les deux structures et encore une fois, rappelons-le, permis par le Centre d'animation des Chamois et notre ami Atem Ben Ismaël.
À qui je range un hommage aujourd'hui. Ça fait des années maintenant qu'il nous a accueillis et qu'il déploie une énergie, un enthousiasme... un sens de l'hospitalité qui est magnifique. Et voilà. Merci.
C'est grâce à lui aussi qu'on a monté l'association. C'est lui qui nous a aidés à monter l'association au moment où j'ai décidé. On avait décidé à 4-5 bénévoles de le faire. Et donc, moi aussi, je remercie énormément Atem pour toute son aide.
Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place, bien sûr, et plein de créations en Occitanie, et c'est tant mieux. Je salue au passage Jacques Lavergne, le président d'Esprit Occitanie, qui est là. Alors, tiens, un mot, Jacques, puisque tu es là, on parle beaucoup de mots, et tu écris des ouvrages et des polars. Mais donc, il y a plein de projets qui vont se mettre en place aussi à la rentrée. Si nos chers amis de la région, du département et de la ville de Toulouse nous donnent quelque argent pour pouvoir fonctionner normalement et pouvoir faire vivre aussi une technicienne ou un technicien.
Oui, merci Christian de me passer la parole très rapidement parce que je crois qu'on est au bout de votre matinale. Oui, on a actuellement 10 émissions qui tournent. Nous en avons 10 autres qui sont prêtes à démarrer avec des gens motivés sur des sujets qu'on espère intéressants, mais vu la qualité des producteurs animateurs, je n'en doute pas. Donc j'espère que la rentrée sera riche et puis avec également des échanges avec d'autres radios, des échanges de programmes, notamment des radios canadiennes, des radios catalanes, les Français de Barcelone, et puis une radio du centre de la France. Bon, on tenterait un peu avec tous de prendre des contacts, de parler de tout ça. Ça devrait enrichir notablement l'antenne. Encore faut-il, bien sûr, que nous ayons la partie technique qui est aujourd'hui assurée par une équipe de jeunes dynamiques et savant-faire. Ça, c'est toujours le plus gros souci. En tout cas, on espère vous retrouver nombreux à l'écoute dès septembre.
Voilà. Merci Jacques, Joël, tu avais un mot à rajouter.
Je crois que tout a été dit et on ne parle pas après le chef.
C'est le président, c'est papa. Merci à Alan Delahaye, Valentin, Marguerite pour la réalisation technique, puisque sans réalisation technique, pas d'émission. Je vous donne rendez-vous dans l'émission Et si demain, mardi, entre 17h et 18h, pour un nouveau direct, et la semaine prochaine aussi pour une nouvelle traversée où nous parlerons aussi de Ciné Espagne. Merci d'être venu jusqu'à nous. Au plaisir de vous retrouver sur l'antenne d'Esprit Occitanie avec des rediffusions, des podcasts. Et c'est merveilleux parce que ces jeunes du lycée des Arènes travaillent merveilleusement bien pour nous. Merci beaucoup.
Merci.
Et à très vite. Et l'indicatif est signé de Damien Moreto. Bye bye.